Pulsan, l'émission de la SAAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission mensuelle de la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 1er avril, le premier lundi du mois d'avril. Vous êtes donc en compagnie de la Société d'Astronomie de Nantes.
2002 pour préciser, puisque ce n'est pas enregistré, n'est-ce pas ?
Ah oui, au cas où il y aurait un extraterrestre qui viendrait et qui ne saurait pas dans quelle année qu'on est, ouais, t'as raison. Donc vous êtes en direct sur Alternantes avec la Société d'Astronomie de Nantes pour l'émission mensuelle Pulsan, l'émission qui vous parle d'astronomie. Aujourd'hui, une émission avec les petites chroniques habituelles, notamment le ciel du mois pour découvrir qu'est-ce qu'il va y avoir à observer dans ce mois d'avril d'intéressant dans le ciel. Aussi, les actus astro pour voir toutes les dernières nouvelles astronomiques et astronautiques qui se sont déroulées le mois dernier et puis même les jours derniers, puisqu'on se met à jour très régulièrement. Ensuite, une petite point sur la conférence de Ludwig Seyniquier qu'il a donnée au mois de janvier dernier. Donc c'est une conférence qu'il a faite sous l'égide de la Société de l'Astronomie de Nantes, qui nous parlait de rayonnement ultra-énergétique. Donc on va vous passer son interview et puis parler un peu de ce que sont les rayonnements ultra-énergétiques. C'est même pas énergétique, ils sont ultra-énergétiques. Et puis bien sûr, en ce lundi 1er avril, qui cumule le lundi de Pâques et le 1er avril, nous allons vous parler de Pâques. Comment on calcule la date de Pâques, puisque bien sûr tout est en fonction de l'astronomie. Donc, et puis on vous parlera rapidement de pourquoi le 1er avril on fait des cochonneries ou des bêtises aux gens, puisque en fait.
Plutôt des blagues, quoi.
Plutôt des blagues, on va dire.
Je voudrais dire que Thierry, t'as un poisson d'avril dans le dos.
Ouais, ouais. Donc, pourquoi vous avez c'était le mois d'avril, vous avez. Mais Daniel se lève, mais c'est un nom.
Non, mais c'était pas vrai, c'était un poisson d'avril.
Ouais. Oh là là là. Ah,
ça, c'était un poisson d'avril, une dérivée de poisson d'avril. Comme voilà. Nous savons faire à la Société d'Astronomie.
Donc, nous vous présenterons un peu tout ça, puisqu'on essaie de trouver la raison pourquoi le 1er avril, on vous fait la fête, on vous fait des blagues, et en fait, c'est une raison aussi qui est plutôt rapport avec le calendrier.
Ah oui, ce qu'on doit vous préciser, c'est que cette émission n'est pas une blague.
Non.
Encore
non,
que non. Si ça l'était, c'est comme ça qu'on vous la présenterait.
Voilà. Comme on dit d'habitude, c'est en direct et ça se voit. Voilà, merci. Donc nous allons entamer le début de l'émission avec nos petites présentations des dernières nouvelles, plus nantaises et plus de ce qui s'est passé.
Nantaises et astronomiques.
Voilà, et de ce qui va se passer dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Donc prenez déjà dorénavant vos agendas pour noter les prochaines dates.
Et vos agendas 2003 aussi. 2002-2003,
vous pouvez aussi les sortir. Donc, la dernière petite chose qui s'est déroulée, on va prendre dans l'ordre chronologique inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre le 20 mars, le 29 mars, c'était la dernière conférence du cycle 2001-2002 par Marie-Yvonne Gerin.
Marie-Yvonne Gerin qui a accepté de remplacer Françoise Combes, puisque vous le savez, sur nos programmes, nous avions prévu de faire venir Françoise Combes pour parler des galaxies, et des galaxies du bout du monde en quelque sorte, le lien entre les galaxies ultra énergétiques, là encore, et les pulsars. Donc ça, c'était pas les pulsars, qu'est-ce que je raconte, les quasars.
Les quasars.
J'avais un doute au moment où j'ai dit ça. Et voilà. Les quasars, quasi-stellar, objects, etc. Et en fait, elle a eu un impératif professionnel. Alors ça arrive rarement, il faut préciser. C'est peut-être une des premières fois.
Je crois que c'est la première fois.
C'est même la première fois qu'on est. Et nous sommes tellement bien connus dans le monde de l'astronomie professionnelle qu'il n'y a eu absolument aucun problème pour trouver une remplaçante qui était Marie-Yvonne Gerin. J'ai appris par la suite que c'était sa première conférence. Donc Elle a inauguré, ça. Nous l'avons en quelque sorte, je
baptisé.
Dirais, bon, pas défloré, ça serait inconvenant, mais en fait, c'est, nous lui avons fait son baptême de conférence. Elle était ravie, j'espère que le public l'était également, puisqu'elle nous a parlé de cette astronomie de l'invisible, c'est-à-dire les infrarouges. Qu'est-ce qu'on détecte avec les rayonnements infrarouges, les rayonnements qui sont très, à la fois bon, faciles, on va le dire, à observer, mais en même temps très difficiles, et surtout, il faut vraiment éliminer tout ce qui est parasite. Et donc, okay. Ça permet d'accéder à des structures profondes du bout du monde.
Hein, notamment des galaxies, c'est pour ça en place on a gardé le thème.
Voilà,
le but, bien sûr, c'était voilà. Pas de remplacer le thème de Françoise Combes, puisqu'en fait,
on avait pas prévu. Tout à fait, n'était voilà. Pas remplaçable à 100%, mais elle a parlé de galaxies, Marie-Marie Gérard,
ça travaille avec Françoise Combes, c'est Françoise Combes qui nous l'a conseillé.
Elle travaille dans le même laboratoire, voilà. Qui est un laboratoire sans mur, comme ça se fait maintenant dans la recherche, c'est-à-dire il y avait à moitié École Normale Supérieure, moitié Observatoire de Meudon, enfin de Paris à Meudon, et c'est un laboratoire d'astrophysique où on travaille beaucoup sur les rayonnements, bien entendu, qui sont en fait les signaux qui nous parviennent de l'univers, hein, dont nous ne voyons souvent qu'une toute petite fenêtre dans le rayonnement visible. Mais vous le savez que depuis longtemps, on observe aussi des ultraviolets, on observe aussi des ondes radio qui sont d'autres rayonnements, et ces fameux infrarouges avec lesquels on pénètre au plus profond des galaxies. Ça permet de voir ce qu'on ne peut pas voir autrement, et notamment des nuages de poussière, etc. Donc, ça a été une conférence comme on les aime, c'est-à-dire c'est un peu technique, faut bien reconnaître.
Pour certains moments, oui. C'est intéressant aussi.
Il faut reconnaître que c'est aussi ce que notre public demande, c'est qu'on lui donne effectivement des informations récentes et aussi qu'on montre comment on a fait, comment les chercheurs font pour arriver aux notions qui au résultat de la science. C'est pas seulement un compte, pas seulement des compteurs qui nous parlent un peu de la science dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on a mis tout cela en place. Alors là, il s'agit bien sûr de découvertes relativement récentes, puisqu'elles sont liées à des instruments, des satellites qui sont envoyés en l'air depuis quelques années. D'ailleurs, ISO a fini sa carrière, et c'est maintenant un nouveau satellite qui va être envoyé. C'est là-dessus aussi que travaille Marie-Yvonne Gerin, avec une caméra ultra sensible aux ondes submillimétriques. Mmh. C'est-à-dire, en gros, les infrarouges, justement.
Les proches infrarouges. Non, c'est vrai que c'était très intéressant, il y avait du monde en plus.
Il y avait plein de monde.
Les gens avaient l'air d'être ravis de la conférence. Bon, c'est vrai que certains ont trouvé peut-être un certain passage un peu technique, mais l'intérêt aussi, c'est de pas... Comment voulez-vous faire une conférence sur les galaxies sans aborder un peu des points? Si c'est pour montrer 4 photos de galaxies dans une conférence, c'est pas la peine.
Mais je crois qu'il faut rappeler au public que ces conférences, bon, maintenant, la majorité du public, bien sûr, a admis cela, c'est qu'on ne comprend pas forcément tout, mais on vient comme dans un concert, on n'est pas forcément un musicien accompli, on retient pas tout, et des choses, des passages plus difficiles, mais on en garde quelque chose, et on en garde aussi le sentiment que la science se fait avec des êtres humains et avec des concepts qui sont pas toujours faciles, mais enfin, on comprend quand même le principe. Hein, donc ça, c'est important de voir. Bien sûr, et Thierry, tu l'as bien résumé, on ne peut pas non plus éternellement montrer simplement de belles choses avec des commentaires un peu style télévision pour les enfants. Quoi.
Voilà.
Donc c'est ça notre rôle.
C'était une bonne conférence, mais elle finissait notre cycle qui a commencé. Nos cycles font toujours de 2001 à 2002, c'est-à-dire en
plus de près les
vacances scolaires. Ouais. Donc par contre, on a une mauvaise nouvelle, mais on vous l'a déjà annoncé, c'était une conférence hors cycle.
Oui, ben là, ça fait, il faut le répéter, on a des gens qui nous téléphonent. La conférence qui devait avoir lieu le 17 mai avec Hubert Reeves a été annulée, donc il y a fort longtemps, puisque Hubert Reeves est au Canada à ce moment-là, il ne le savait pas avant. Alors moi, je connais pas toutes les contraintes d'un conférencier de la taille d'Hubert Reeves, parce qu'il est souvent très sollicité, mais bon, une fois qu'il a promis, normalement, il vient, mais là, c'est qu'il a dû avoir un impératif majeur. Alors bon, c'est difficile, ça montre aussi les difficultés de ce genre de programmation. Voilà, donc il faut répéter, donc Hubert Reeves ne viendra pas. Il ne reviendra pas le 17 mai, pour l'instant nous ne l'avons pas reprogrammé, parce que je ne vois pas trop, on le fera peut-être, mais on ne le mettra plus sur des plaquettes, on l'annoncera quand on sera sûr.
C'est vrai que là on savait qu'il allait venir, donc on l'avait annoncé sur la plaquette, et en conférence hors cycle, et en fait on ne l'aurait pas annoncé, ça aurait été...
Alors je peux juste vous donner...
Donc parle justement du prochain cycle, parce que le prochain cycle va commencer septembre-octobre 2002, pour finir vers mois de mars 2003.
Voilà, il commence même précisément le 11 octobre, qui est un vendredi, puisque Michel Mayor a accepté de venir. Michel Mayor travaille à Genève.
C'est le gros calibre au sens astronomique pratique, on va dire.
Voilà,
c'est vrai qu'il n'est pas très connu à la regard du grand public, sauf parce quand même son nom
est associé à Kélos. C'est une vedette dans le monde de l'astronomie, ouais, puisqu'il a découvert l'une des premières, sinon la première planète extrasolaire, c'est-à-dire 51 Pégase.
Donc ils en ont beaucoup parlé dans les années 95, dans les 80...
Découvert en 95, voilà. Donc à l'Observatoire de Haute-Provence, l'étoile numéro 51 de la constellation de Pégase, hein, qui est donc dans notre hémisphère en plus. Mmh. Donc c'est une étoile, on ne sait pas trop si c'est une grosse planète, c'est une espèce d'énorme Jupiter qui est très proche de l'étoile. Alors on ne sait pas si c'est une naine brune, si c'est une
petite... Surtout qu'en plus c'est par des moyens directs, donc on ne sait pas très bien ce que c'est exactement. Ben,
ça c'est le problème des planètes extrasolaires, c'est que c'est la détection, hein, comme on donne souvent une image qui vaut ce qu'elle vaut, c'est détecter la lueur d'une bougie à côté du phare de Saint-Nazaire.
Voilà.
Bon, ça, c'est la difficulté, mais on a beaucoup avancé. On a découvert actuellement une centaine de planètes extrasolaires. Alors, comme autre, donc Michel Mayor, le 11 octobre, retenez cette date.
C'est pour ça que vous pouvez déjà la noter.
Voilà, d'autres pistes. Bon, Daniel Bonneau, qui a travaillé en interférométrie avec Antoine Labéry, hein, qui viendra au mois de janvier, dans la semaine de l'astronomie, mm-hmm. Au mois de janvier 2003. Avec également d'autres comme Suzanne Desbarba, qui est une historienne extraordinaire, qui nous parlera des découvertes des planètes comme Uranus, Neptune et Pluton. Trois découvertes, trois méthodes différentes. Également Michel Cassé, qui est un astrophysicien extrêmement réputé également. Et puis d'autres, puisque nous en avons 10, certains ne sont pas encore tout à fait déterminés. Donc on vous dira ça au fur et à mesure, et notre programme, on l'espère, sortira au mois de mai-juin, par là.
L'idéal, c'est de sortir un petit peu avant les vacances scolaires.
Voilà. Alors moi j'ai une petite, c'est toujours mon couplet favori sur l'heure d'été, bien sûr.
Parce que,
je ne vous donnerai pas le déterminisme de cette heure d'été qui est strictement une décision politique et humaine, et on pourrait même dire un petit peu absurde. Bon, le prétexte c'était Giscard, quand il était président, qui a inauguré ça, cette fantaisie, sous prétexte d'économiser un navire de pétrole. Alors que la mise en place de l'heure d'été, on a gaspillé 5. Enfin, c'est en gros ce que disent les adversaires. Hein. D'un autre côté, moi, ça me fait un petit peu doucement rigoler, puisque j'ai vu encore récemment un reportage sur la guerre de 14 et la guerre de 70, où dans toute la Somme, les Allemands, quand ils ont débarqué, en bon envahisseur, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses que fait un envahisseur, curieusement, il impose son heure à lui, l'heure de Berlin. Mmh. Et d'ailleurs, notre président d'honneur nous dit toujours... Tout l'hiver, nous sommes bien sûr à TU plus 2, c'est-à-dire que nous avons un fuseau horaire de décalage avec le soleil, nous sommes en avance d'une heure, nous sommes à l'heure de Berlin. Donc toute l'année, enfin tout l'hiver, nous sommes à l'heure de Berlin, et maintenant c'est encore pire, fantaisie suprême, nous sommes à l'heure de Varsovie, pourquoi pas l'heure de Pékin pendant qu'on y est.
Tout à fait.
Alors ça fait partie des absurdités, alors bon je vous dirais, certains trouveront que c'est très joli d'avoir la lueur très tard le soir, je crois que ça fait pas tellement l'affaire des astronomes, mon cher Frédéric. Parce que pour observer, il faut que tu attendes longtemps, toi.
Eh ouais, au mois de juin, des fois, c'est minuit.
Voilà, on commence à observer.
Quelque chose, donc c'est un peu embêtant. Ouais.
Voilà, certains nous diront, c'est dérisoire. Maintenant, demandez aux paysans, parce que les animaux, eux, ils ne connaissent pas les horloges humaines, hein, les décisions politiques. Eux, ils ont une horloge interne, biologique. Et puis, ma foi, l'heure de où ils ont faim, où ils ont leur cycle biologique, ça ne change pas, cette heure-là. Et moi, qui suis biologiste, je suis toujours étonné que les gens, maintenant, on les fait lever à 4 heures du matin, pour certains enfants qui habitent à Brest, heure solaire. Mmh. Hein, les gens se font un traumatisme tous les matins en se levant beaucoup trop tôt, et après, on se demande pourquoi il y a tant de cancers. Je sais pas s'il y a une relation, mais moi, ça me fait toujours rigoler quand on est tellement à cheval sur les pouillèmes de microgrammes de machin truc qui se trouvent dans du Coca-Cola et qu'on détruit des milliers de mètres cubes de Coca parce que un fantaisiste quelconque a trouvé quelques traces de je ne sais quoi. Et là, crac, on leur fiche un traumatisme maison tous les matins. Voilà, c'était juste ma petite gueulante.
Ouais,
habituel.
Que les hommes politiques sont tous des clowns, on le sait. Donc là, on est en plein carnaval, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les élections présidentielles.
C'est une
chose aussi simple que la modification de l'heure, ça apparaît même... Déjà, les problèmes réels des Français apparaissent pas dans le programme politique, alors le changement d'heure...
Tout le monde s'en fiche maintenant. Bon, mais il n'y a que nous, ça me fait plaisir de râler un peu contre ça, parce que ça fait partie des bêtises. Ah voilà, vous savez donc, dorénavant, nous sommes à deux fuseaux horaires de décalage. Nantes, déjà, est à un quart d'heure à l'ouest du méridien de Greenwich, qui passe, comme vous le savez, à Saumur, au Havre, etc. Et avant, le méridien de référence, c'était le méridien de Paris. Alors bon, les Anglais ont gagné une guerre, et donc on a adopté le méridien de Greenwich, et les Allemands ont gagné l'autre, on a l'heure de Berlin. Donc voilà,
La première, c'était une guerre, c'était pas une vraie guerre contre des hommes, c'était une alliance, un pacte signé.
Voilà, donc je ne serai pas plus long parce qu'il y en aurait à dire.
Sur l'heure d'été, on fera peut-être une émission spéciale là-dessus. On remonte un peu encore en arrière, on était le 29 mars pour la dernière conférence, on remonte au 20 mars, le samedi soir, c'était la troisième édition. 23 mars, c'était la troisième édition des Ciels de Nantes.
La troisième ou la quatrième ?
La troisième.
Ouais. Les Ciels de Nantes qui se déroulent donc au Grand Blottereau. La prochaine aura lieu le samedi 20 avril. Il faut savoir, et ça, c'est vraiment une manifestation très sympathique. On y vient en famille, c'est à partir de 21h. Il y a là beaucoup de télescopes pilotés par notre ami Frédéric.
J'ai une belle équipe aussi derrière moi.
Une belle équipe, donc on va sans arrêt chercher à améliorer cela. Ça vous plaît beaucoup, apparemment. Mmh. Les gens viennent, sont ravis, parce que certains voient pour la première fois. C'est toujours émouvant. Et curieusement, il y a beaucoup de gens qui ont vu plein de choses à la télévision. Mais quand même, voir les choses en vrai, ça n'a pas de prix. Hein, c'est une émotion.
C'est vrai que c'est complètement différent. Une image vue à la télé, c'est pas une image que l'œil voit en direct. Donc c'est vrai qu'il y a une émotion qui est beaucoup plus importante la première fois qu'on voit par exemple les anneaux de Saturne ou tout simplement ce qu'on a pu voir la dernière fois, voir disparaître un des satellites de Jupiter derrière la planète. Ça, on l'a vécu en direct. Et quand vous dites que vous regardez une planète qui est à 700 millions de kilomètres de la Terre et que vous voyez disparaître une des lunes, comme nous on a notre lune derrière la planète, bah, ça a toujours son brin d'émotion. Hein.
Ce que je m'étais dit, Frédéric, à l'issue de cette remarque, quand j'ai appris que les gens avaient vu la disparition d'un satellite de Jupiter ou de Jupiter.
Ouais.
Et ben, je me dis au fond, parce que quand on voit la lune bouger, quand on voit les objets bouger dans le télescope, c'est tout simplement parce que la Terre bouge. Bon, ça, c'est une chose. Les gens sont émus. En même temps, ils voient que ça va très vite, que ça bouge. Mais alors, si maintenant, en plus, un satellite de Jupiter, là, c'est plus la Terre qui est responsable de la disparition du satellite. C'est carrément, on voit un phénomène en direct. Et les gens voient, c'est leur image à eux, quand ils ont l'œil au télescope, qu'ils voient un truc, et personne d'autre qui le voit à ce moment-là.
Non, tout à fait.
Donc, ils sont transformés en astronomes, quoi. En professionnels, ils sont là, et puis, ils ont fait une observation.
Non, puis ils voient en plus que c'est pas immuable. On pourrait leur faire croire qu'il y a une photo collée sur le télescope. Je veux dire, c'est le principe qu'ils voient une chose une fois. Puis c'est vrai que de voir que la disparition d'un satellite, il y en a certains qui ont regardé, il y en avait quatre. Et puis un quart d'heure plus tard, il y en avait trois. Bah, ils l'ont cherché, le quatrième. Voilà, et puis il y en a d'autres qui leur ont dit, non, il a disparu il y a cinq minutes. Quoi.
Alors il y a des fans du télescope, hein, le plus gros possible. Hein, et puis il y a des fans de la lunette.
Non, bah, je dirais que c'est des instruments qui sont très complémentaires. Même entre télescopes, il y a des instruments qui sont spécialement destinés à observer des planètes et puis d'autres qui sont plus destinés à observer des galaxies, des nébuleuses. Donc il y en a pour tout le monde. Et je dirais, même sans parler de lunettes et de télescopes, on a aussi, et c'est la première fois qu'on le faisait lors de ces Ciels de Nantes, pu initier tout simplement notre public à reconnaître les constellations. Alors à l'aide de lampes torches, on éclaire un peu, entre guillemets, le ciel.
On fait un faisceau lumineux
pour montrer aux gens les principales constellations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire pour la première fois parce qu'on avait un ciel, bien qu'il n'était pas encore parfait, parce que pas mal voilé, mais on a pu montrer les principales constellations et déjà que les gens puissent reconnaître des constellations comme la Grande Ourse et d'autres parmi les plus connues comme Orion. Déjà, les gens sont contents et ils ont pu voir tout simplement avec l'oreille. Hein, et c'est quelque chose d'assez, je dirais, réjouissant pour les gens de savoir justement que là, ils sont capables de repérer la Grande Ourse.
Et par-delà, ils ont vu autre chose que la Grande Ourse en plus. Parce que d'habitude, les gens connaissent un peu la Grande Ourse, et encore.
Non, mais je parlais de la Grande Ourse, mais c'est vrai qu'ils ont pu voir tout un tas de
Cassiopée, etc. Voilà. Cassiopée également, ouais.
Et on espère que justement, pour la prochaine, on pourra rééditer ça avec un ciel encore plus clair.
On espère que le temps va en s'améliorant, puisqu'on se rapproche de l'été. Mais c'est vrai que la prochaine, qui est le samedi 20 avril, on espère encore. On n'a pas encore eu. C'est la troisième édition qu'on a eue le 23 mars.
On
a toujours pu observer. Ouais. On n'a pas eu d'eau. On n'a pas eu complètement voilé. C'est vrai que le ciel s'améliore entre guillemets d'édition en édition. Sachant qu'il il était un peu différent de la deuxième. La première, il n'était vraiment pas génial. La deuxième, il était pas trop mal, mais voilé. Il y avait des nuages tout autour, donc le zénith était un peu dégagé. Là, la troisième édition, il était dégagé partout, mais en fait, il y avait une espèce de voile sur tout le ciel.
Donc, il y avait une belle couche de brume au-dessus des horizons. Et, ça nuit d'une certaine façon un peu à la transparence du ciel, mais... D'un autre côté, ça a aussi ses avantages. On dit souvent en astronomie qu'un ciel un peu voilé, ça stabilise l'atmosphère et ça améliore un peu les visions qu'on peut avoir d'objets planétaires comme les planètes, que sont Jupiter, Saturne ou tout simplement la Lune.
C'est un peu ce que disent les citadins, puisque les Parisiens souvent sont frustrés, puisque notamment eux. Et pour l'observation planétaire, quelquefois c'est meilleur. Parce que la belle campagne, le beau ciel bien noir, pour les planètes très lumineuses, c'est un problème de contraste. On voit bien, mais on ne voit pas forcément
mieux. C'est surtout un problème de stabilité de l'atmosphère, c'est-à-dire que l'atmosphère est plus ou moins agitée, et malheureusement, il limite aussi la vision de fin détail avec nos télescopes. Et le fait d'être en ville... on a moins de, je dirais de,
comment, de turbulence, comment, quoi,
de moins de turbulence, moins d'échanges thermiques peut-être entre le
l'atmosphère est plus homogène.
Voilà, l'atmosphère est plus homogène et ça peut permettre justement de stabiliser par rapport à un ciel de campagne où là les échanges thermiques vont être plus violents et où on pourrait avoir des images qui sont de qualité moins bonne sur des objets comme les planètes.
Alors, en dehors de l'observation, vous l'avez compris, on va aussi vous expliquer beaucoup de choses à propos de l'observation astronomique.
Et la question aussi.
Voilà, et sur les techniques, sur comment marche un télescope, etc. etc. Donc, venez le samedi 20 avril à partir de 21h au parc du Grand Blottereau.
À Nantes.
Ça sera Fléché, à Nantes, voilà. C'est derrière le gymnase.
Quatrième édition.
Pour la quatrième
édition des Ciels de Nantes.
Les Ciels de Nantes, c'est joli, ça plaît comme nom, c'est un joli nom. Alors à propos du Grand Blottereau, une dernière petite information, puisque vous le savez, il y a une stèle solaire, enfin une grande œuvre d'art, une statue qui est déposée depuis le mois de septembre dernier.
On vous a déjà parlé dans les
émissions précédentes. On en a parlé, et là, le phénomène astronomique qui est prévu se déroulera aux alentours du 1er mai. Quand je dis aux alentours, c'est qu'on va essayer de mettre en place un rendez-vous public. Ça sera vers 7 heures du matin, donc ça sera aux aurores.
Rappelle peut-être la date.
Non, on n'a pas encore fixé la date.
Il y a 3-4
dates. C'est le 1er, 2, 3 ou 4 mai, on verra. Par contre, comme je ne peux pas donner la date, ceux que ça intéresse, téléphonez donc à la Société d'Astronomie quelques jours avant, au 02 40 68 91 20. 02 40 68 91 20. Et informez-vous justement de ce qu'on aura prévu pour vous accueillir aux aurores, pour voir ce phénomène astronomique, le passage du soleil derrière la stèle.
C'est vrai que ça va être assez joli. Ouais. Une dernière info, je crois, on va quand même parler de la foire internationale.
Ah ben oui.
Qui se déroule actuellement.
Qui se déroule actuellement, mais nous,
le présent. Le point culminant, c'est à un moment, la SAN va y aller.
Le stand de la SAN, le samedi, dimanche, lundi, donc c'est le 6, samedi 6.
C'est la samedi qui vient.
Oui, samedi qui vient, samedi 6 ou samedi 5
6, 7, 8.
Dimanche 7 et lundi 8, où nous aurons un stand dans le grand hall où il y a d'autres associations d'ailleurs. Et comme chaque année, on essaie d'être présent pour que vous puissiez nous rencontrer, ceux qui ne nous connaissent pas encore, et puis des informations. Et puis on aura une petite exposition avec nos panneaux, nos télescopes. Enfin, on va essayer de mettre des choses attrayantes pour vous accueillir au mieux.
Tout à fait. Voilà, c'était la fin de nos petites nouvelles. On va aborder
Il y a Envisat, non ? Attends, tu diras un mot. Non, tu diras tout à l'heure.
Il dira tout à l'heure, il y a un satellite qui vient de prendre ses premières images. C'est pour ça que Fabrice va en parler. Il en parlera dans ses nouvelles. Il essaie de glisser il n'a jamais assez de temps pour sa nouvelle. Alors il essaie d'en glisser, d'en disséminer à droite à gauche dans l'émission. C'est un petit futé, celui-là. Donc, tout de suite, nous allons aborder, on parlait justement des ciels de Nantes. Là, on va vous parler notamment de ce qu'on pourra voir le 20 avril, le prochain ciel de Nantes, mais surtout ce qu'on pourrait voir dans tout le mois, c'est-à-dire le ciel du mois avec Frédéric Brion. Alors Frédéric, on est le 1er du mois d'avril, donc là on a 30 jours ou 30 jours pour observer le ciel. Alors, tu as 30 jours à nous dire ce qu'il y a à voir.
Bon, il y a déjà une chose qu'il ne faut pas rater, c'est la comète dont je vous avais parlé.
Donne-le le nom.
Ikeazang.
C'est bien.
Cette fois-ci, je l'ai appris.
Il l'a appris avant l'émission, c'est bien.
Et c'est pas une publicité d'une marque de meubles démontés, là.
Oui, Ikeazang.
Ikea. Ils ont ouvert un magasin le 20 février, mais celle-là, elle a été découverte le 1er février.
Voilà, c'est tous les débris des gens qui jettent ces meubles Ikea par la fenêtre quand ils n'arrivent pas à les monter.
Ouais, mais là, il faut les balancer des stations spatiales, quoi.
Ouais, ils ont essayé de la meubler avec Ikea parce qu'ils n'ont plus de fric, je crois, les stations spatiales. Mais ça a pas marché, ils ont tout jeté par le hublot, puis voilà, on croit que c'est une comète.
Donc la comète, en fait, c'est des co-découvreurs chinois et japonais, c'est pour ça qu'il y a un nom un peu bizarre.
C'est pour ça qu'elle porte le nom Ikeazang, du nom de ses découvreurs, donc un japonais qui s'appelle
Ikea.
Et on la reconnaît à ses deux baguettes.
Peut-être, ouais. Non, bon, plus sérieusement.
Ça va être dur avec Daniel.
Ça va être dur, ouais. Donc cette comète, elle est observable le soir. Et profitez donc des jours qui viennent, car il va y avoir un rapprochement très très intéressant avec la grande galaxie d'Andromède. Et dans les jours qui viennent, vous allez voir la comète passer très très près de la galaxie.
Dans donc, la constellation d'Andromède. Hein,
dans la constellation d'Andromède, ouais, voilà. Bon, c'est pour les astronomes, c'est la galaxie. La plus visible depuis notre
seule qui soit visible à l'œil nu. D'ailleurs.
Voilà, c'est la seule visible.
C'est qu'elle est très puissante, alors, lumineuse.
Elle est à gauche de Pégase.
Voilà. Et regardez donc sur l'horizon nord-ouest le soir. Dès la tombée de la nuit. Hein. Il faut très peu attendre parce que malheureusement cette comète n'est pas très très haute dans le ciel, une dizaine de degrés au-dessus. Au-dessus de l'horizon, donc il faut pas trop tarder, quoi, hein, parce qu'après elle va malheureusement se coucher.
Alors, il faut avoir des jumelles ou une...
Des jumelles, ouais, des jumelles, c'est déjà là. Moi, je l'ai observé aux jumelles cette semaine, et c'est déjà le bon outil. Alors, vous allez voir par rapport à une étoile classique qui est un point ponctuel, vous verrez une tache un peu plus diffuse. Avec une petite queue derrière, une queue de gaz. Mm-hmm. Bon, elle est bien sûr pas aussi impressionnante que les comètes qu'on a pu voir il y a 4-5 ans avec Elbop et puis Yakutake. Mais c'est une comète, je dirais, de premier ordre quand même, hein, parce que sa luminosité, en jargon astronomique, va atteindre la magnitude 4. Donc c'est une luminosité qui permet de la voir à l'œil nu et qui est, ma foi, quand même assez brillante par rapport à d'autres comètes. Donc essayez de profiter de ce mois-ci pour l'observer.
Parce qu'après, en fait, au mois de mai, ça va commencer à être
difficile. Elle va baisser assez rapidement. Elle va, d'ici la fin avril, elle sera quasiment plus visible à l'œil nu, quoi. Mm-hmm. Donc profitez de ces jours, des jours qui viennent là. C'est vraiment les meilleurs jours. Et notre chance aussi, c'est qu'elle va... Elle va continuer parce que c'est quelque chose qui bouge quand même assez vite dans le ciel, de jour en jour. Et notre chance, c'est qu'elle se rapproche des constellations qu'on appelle nous circumpolaires, c'est-à-dire qui ne se couchent jamais. Donc d'ici quelques jours,
on va faire toute la nuit, quoi.
La comète, vous pourrez l'observer toute la nuit. Alors pas dans des très très bonnes conditions parce qu'elle sera pas très très haute, je dirais, dans le ciel, mais vous pourrez l'observer toute la nuit. Donc ça, c'est le premier événement. Essayez d'observer cette première comète.
C'est un peu de la cerise sur le gâteau parce qu'elle a été découverte très tard. Donc elle n'était pas trop prévue, donc on a eu la chance d'apprendre qu'on allait bientôt avoir une comète qui allait arriver, ce qui est assez agréable.
C'est un peu comme toutes les grandes comètes, hein. Yakutake, moi je me rappelle à l'époque, avait été découvert à peu près à la même période pour illuminer notre ciel. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces comètes, on dirait qu'elles reviennent à chaque fois à peu près au même mois de l'année, parce qu'on fait la comparaison avec Yakutake et avec Elbop. C'était une découverte, je dirais février, surtout pour Yakutake, parce qu'Elbop, on l'avait repéré beaucoup plus tôt. Mais un point culminant qui était le mois d'avril, quoi, hein, le début avril, quoi, donc à peu près pour toutes ces comètes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle une occultation de Saturne par la Lune. Alors il y en a eu une au mois de novembre dernier et au mois de décembre. Celle-là, je dirais malheureusement, elle va pas vraiment pouvoir être observée du côté nantais, parce que elle n'est que, ce n'est qu'une occultation, je dirais, totale, où on va voir disparaître véritablement la planète que pour la partie nord de la France, pour une ligne qui va, une ligne qui est au nord de
Paris.
Une ville qui, je dirais, une ligne qu'en Dijon à peu près, quoi. Donc,
c'est vraiment le nord-nord en plus. Hein.
C'est le nord, nord-est, quoi, nord-est.
Et pour les Nantais, dès que c'est au-dessus de Rennes, c'est le nord-nord. Quand voilà. C'est quand même pas vraiment le
donc,
nord.
Pour les, malheureusement, je dirais que pour les Nantais, on va pas être très bien situé. Mais on pourrait peut-être remonter un peu au nord et voir ce qu'on appelle une occultation rasante. C'est-à-dire que pour les personnes qui vont être sur la ligne Caen-Dijon ou un peu en dessous, ils risquent de voir disparaître de temps en temps Saturne. C'est-à-dire qu'on risque de voir disparaître...
Saturne passer derrière les montagnes de la Lune.
Passer derrière les montagnes de la Lune. Frôler la Lune, puis d'un coup passer derrière une montagne et puis réapparaître après. Donc c'est ma foi assez impressionnant aussi. Hein. On la voit pas disparaître complètement et réapparaître complètement, mais on la voit plusieurs fois frôler le relief lunaire.
C'est là qu'on voit notamment que la Lune, c'est pas une boule du billard bien lisse. Hein.
Voilà, et qu'il y a des montagnes, j'y dirais, comme sur Terre, quoi. Et
alors c'est quand ce phénomène ?
Ce phénomène, c'est le 16 avril, donc 16 avril au soir, vers 23h. Alors maintenant que je parle, je fasse la conversation.
En heure de Varsovie, c'est quoi ? C'est 1h du matin alors ?
Ah non, c'est 23h locale. Je parlais
légal.
Légal. 23h légal, voilà.
Donc c'est voilà, pour un aviateur ou une hôtesse de l'air, on comprend, mais un astronome, non.
Donc, vous sachez qu'il faudra sortir à peu près à 23h voilà, ce jour-là
à votre montre,
pour pouvoir observer le phénomène, et bien sûr un peu avant pour voir surtout se rapprocher Saturne de la Lune. Donc sur Nantes, bon, ça sera peut-être un peu plus éloigné, mais je pense que le spectacle sera quand même assez impressionnant.
Donc là, on a la comète à observer tout le mois. Mi-avril, l'occultation de Saturne par la Lune.
Dernière chose, là, à la fin du mois, c'est parler un peu d'une planète dont on ne parle pas très très souvent, parler de la planète Mercure. Donc qui est assez difficile à observer parce qu'elle s'éloigne jamais trop du Soleil. Et là, on va entrer dans une période, disons à la fin du mois, qui va être globalement satisfaisante pour pouvoir l'observer. Alors donc, essayez de l'observer le soir.
Parce qu'il y aura un maximum d'élongation, c'est-à-dire qu'elle sera le plus éloigné en angulaire du Soleil.
En angulaire du Soleil, voilà. Mmh. Et donc elle sera assez visible, elle va se rapprocher pas très très loin de la planète Vénus, qui elle est un phare, hein, un véritable phare, hein, c'est l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune dans notre ciel. Donc regardez sur le ciel d'ouest, si vous repérez Vénus quelques jours avant, quelques degrés avant, en allant vers l'horizon, vous risquez de repérer quelque chose qui n'a pas à être là, qui est une planète et qui est la planète Mercure.
Pour résumer, si vous voyez une étoile près du soleil couchant, c'est aberrant de voir une étoile dans la lueur du soleil couchant, c'est probablement Mercure.
Mercure.
Et la plus grosse des deux, ça sera Vénus.
Ça sera Vénus, oui. La plus brillante des deux, ça sera Vénus. Alors, profitez justement de cette fin du mois, parce qu'on va avoir dans cette région du ciel un beau rapprochement entre planètes. On aura tout d'abord Mercure en partant de l'horizon. On aura juste après un des amas les plus connus du ciel, qui est l'amas des Pléiades, donc un amas d'étoiles. Un peu plus haut, vous aurez Vénus, ensuite Mars et Saturne. Donc il va y avoir un rapprochement assez conséquent de planètes dans ce ciel de fin avril. Ça vaut le coup déjà de l'observer, et puis derrière ça, de même sortir un simple pied photo avec un appareil photo. Vous prenez un paysage assez sympa à voir. Vous cadrez les quatre planètes et puis vous faites la photo. Hein. Vous posez quelques secondes. Et puis, vous aurez le souvenir de voir ces quatre planètes dans le ciel du soir d'avril.
Il faut bien préciser le paysage, parce que c'est vrai que c'est vraiment plus joli d'avoir ça sur des montagnes ou sur des arbres plutôt que sur un poteau électrique et puis le pignon du moisin voilà, d'en face.
Là, c'est toute une technique de photographe, voilà. la composition.
C'est un peu comme des diamants, en fait, hein, toutes ces planètes. Et c'est joli comme tout. Il ne faut pas hésiter à mettre de l'astronomie sur vos photos. Hein.
Donc voilà, au horizon ouest, fin avril, profitez de ce rapprochement. Donc, bon, j'en dirai pas plus pour ce mois-ci, mais ça fait déjà pas mal de...
Jupiter est toujours là.
Jupiter, Saturne est toujours là, même si elle commence à se coucher, entre guillemets, un peu plus tôt. Mais profitez encore de ces mois-ci pour les observer, parce qu'elles sont très très hautes dans le ciel. Et puis, je dirais, profitez aussi de ces ciels pour observer tout ce que vous pouvez observer au cours de l'année, les galaxies nébuleuses et bien d'autres choses encore.
Le 20 avril, on pourra peut-être monter Vénus, si elle n'est pas encore couchée. 21h.
Vénus, je pense que ça sera faisable.
Ça sera faisable.
Je pense que ça sera faisable, surtout qu'elle...
Venez à l'heure, parce que si vous venez à 22h, ça va être trop tard pour
elle
Vénus.
Elle a commencé à monter un petit peu, donc je pense du moins dans le ciel, du moins à s'éloigner un peu du soleil, donc on devrait pouvoir... vous montrer Vénus et sa phase.
Merci beaucoup Frédéric, donc vous avez tout noté, on vous rappellera les moments importants à observer à la fin de l'émission, donc n'oubliez pas, sortez quand il fait beau, parce que quand il pleut, autant rester chez vous, à regarder ce que vous pourrez faire le lendemain s'il fait beau, et puis autrement, on va continuer avec la suite de l'émission, on va parler des rayonnements ultra-énergétiques avec le compte-rendu de la conférence de Ludwig Selnicki. Voilà, donc on va vous passer notamment l'interview qu'a réalisé notre président Daniel Horling lors de la venue de Ludwig Selnicki. Donc c'était pendant la semaine de l'astronomie qu'il est venu de faire une conférence sur le rayonnement ultra-énergétique. Donc c'est un domaine qu'on connaît très peu en fait, et puis même que lui ne connaît pas tant que ça. Donc c'était lors de la semaine de l'astronomie au Muséum d'Histoire Naturelle au mois de janvier.
C'était le jeudi 24 janvier. Donc on recevait Ludwig Selnicki, comme tu l'as dit Thierry. Alors Ludwig Selnicki, c'est une histoire, enfin il faut que je raconte peut-être un peu, parce que c'est une histoire un peu émouvante, puisque j'avais souhaité faire revenir Jean Alamar.
C'était au cycle, pour préparer le cycle qui vient de se terminer.
Voilà, je téléphonais, j'envoyais mail sur mail, comme on dit, courrier électronique, pas de réponse. Jean Alamar, qui était un mathématicien qui nous avait éblouis par une conférence autrefois sur les trous noirs et les mathématiques et l'astronomie, enfin un sujet assez difficile qu'il avait fort élégamment illustré, on voulait le faire revenir. Et puis j'ai donc fini par téléphoner et je suis tombé sur un monsieur fort gentil, qui était donc Ludwig Selnicki, et j'ai su ça après, qui m'a dit « Mais mon pauvre monsieur, Jean Alamar est décédé ».
C'est là qu'on l'a appris, malheureusement.
On l'a appris, donc, quelques mois après. Ça nous a, bien sûr, pas fait plaisir, parce que c'était quelqu'un d'assez jeune pour un chercheur. Il avait une quarantaine d'années. Et, bon, en quelques mots, j'expliquais à ce monsieur pourquoi je téléphonais. Et puis, je lui ai dit, mais peut-être que vous-même, vous auriez un sujet qui pourrait se prêter à une conférence. Et puis, donc, on a décidé de reprendre contact, et ça a été fait. Et c'est comme ça que nous avons eu le bonheur de recevoir Ludwig Selnicki, qui est un monsieur qui est d'origine polonaise, qui a conservé un petit accent.
Cet accent, on l'entendra dans l'interview.
On l'entendra. Et il est, ma foi, c'est un théoricien. Et alors, il fait partie de ces astronomes qui ont vraiment la tête d'un astronome. Il faut reconnaître que quand je l'ai vu à la descente du train, je ne pouvais pas trop me tromper. Puis quelqu'un d'assez gentil, de rigolo en plus, et qui travaille sur des choses très sérieuses, hein. Les rayonnements cosmiques. Alors, ces rayons cosmiques, vous savez, sont des signaux qui viennent de l'univers. Il n'y a pas que la lumière, les ondes radio. Il y a ces fameux rayons cosmiques qui sont des radiations de très courte longueur d'onde. Il y a des rayons gamma, il y a des rayons X, enfin, il y a des... Et alors, il y a évidemment... on essaye de comprendre toutes ces observations à l'aide de modèles théoriques que nous élaborons sur Terre, avec les progrès de la physique. Mais ce n'est pas toujours facile de faire coïncider ce que l'on prévoit, d'après la théorie, et ce qu'on observe réellement. Et alors voilà des rayonnements, certains on les a détectés dans l'espace, mais on n'arrivait pas à les expliquer, et à l'inverse, il y en a d'autres qu'on a parfaitement prévu par rapport à la théorie sur Terre, mais qu'on n'a jamais observé. Alors, il y a une espèce une série de points d'interrogation autour de ces rayons cosmiques ultra-énergétiques qui sont autant de sujets, de voies de recherche.
Ce n'est pas non plus que de la lumière, hein, parce que c'est vrai qu'il y a les rayonnements gamma, mais c'est en plus des corpuscules qui sont des protons, etc., qui sont très, très énergétiques.
Bien sûr.
Et c'est vrai que, pour résumer, le problème que nous a parlé le vice-indiqué, donc qu'on va un peu aborder lors de l'interview, c'est qu'ils observent des choses, ils ne savent pas d'où ça vient.
Oui, puis alors, tu sais bien, Thierry, qu'en en physique théorique, particules ou rayonnement, tout cela, c'est la même chose. Hein. Donc, en fait, quand on parle de rayonnement cosmique, on y intègre les particules. Alors, juste pour finir, bien sûr, dans l'interview, on représentera Ludwig Selnickier, mais c'est quelqu'un qui a travaillé au CERN et en Angleterre sur les hautes énergies. Hein. Et alors, depuis 1972, il s'intéresse à l'astrophysique. Il a fait des recherches sur les poussières interstellaires, la scintillation des pulsars, les plasmas interplanétaires, et il étudie actuellement justement ce rayonnement cosmique. Alors voilà donc le sujet qui apparemment était très difficile. Eh bien, figurez-vous que ça a été une conférence extrêmement attrayante, même amusante parfois. Mmh. Et Ludwig Selnickier a vraiment fait la fleur à Nantes d'avoir préparé une conférence exprès pour Nantes. C'était vraiment un bouquet, c'est vraiment ce qu'on aime, et franchement, tous ceux qui ont été, c'est un merveilleux souvenir, et donc on va vous faire partager un tout petit peu de ce souvenir à travers l'interview de Ludwig Selnickier. Alors, monsieur Selnickier, Ludwig Selnickier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes astrophysicien, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez travaillé en Angleterre et surtout sur la physique des hautes énergies. Alors, on va préciser tout à l'heure de quoi il s'agit. Et vous intéressez évidemment à l'astrophysique, puisqu'en tant que physicien des hautes énergies, vous êtes là dans votre paradis des hautes énergies, on pourrait dire. Et vous êtes vos recherches portent sur les poussières interstellaires, les pulsars, leur rayonnement, les fameux plasmas interplanétaires et les rayons cosmiques. Alors, votre conférence de ce soir porte justement, s'appelle Source de rayons cosmiques ultra-énergétiques, porte sur ces fameux rayons cosmiques. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est que ces rayonnements? D'où viennent les rayons cosmiques? Qui les émet? Dans quelles conditions? À quoi ça correspond tout cela?
Ce sont des particules, pour la plupart des protons, qui nous viennent d'au-delà. Et à vrai dire, on ne sait pas très bien d'où elles viennent. Ça fait à peu près 90 ans qu'on sait qu'il arrive sur Terre de l'espace des particules plus ou moins énergétiques. Et pendant toutes ces 90 ans, on s'est toujours posé la question d'où elles viennent. Peu à peu, on a compris d'où viennent les particules de basse énergie, mais les particules les plus énergétiques à chaque époque ont posé un problème. Et c'est le même problème aujourd'hui. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment elles sont formées, on ne sait pas comment elles sont accélérées. Et c'est un problème qui devient de plus en plus, critique.
Mais il y a quand même des rayonnements qui proviennent des étoiles. Est-ce que ces rayons cosmiques, une partie d'entre eux, provient des étoiles?
Une partie, vraisemblablement, provient de certains types d'étoiles.
Par exemple,
des étoiles à neutrons.
C'est-à-dire les pulsars.
Les pulsars, probablement, même très certainement. Encore qu'on n'a pas de preuves directes, ce sont des preuves, des indications indirectes qu'on a. Mais la partie la plus énergétique pose un mystère. Ce sont peut-être toujours des pulsars qui sont à l'origine, mais on ne sait pas. On n'arrive pas à s'accorder, disons, la théorie à l'observation.
Alors, vous disiez tout à l'heure que ces rayonnements étaient des particules. On parle aussi de plasma. Est-ce que vous pourriez préciser un peu ces notions? Quel type de rayonnement, de quoi il s'agit? Des rayons X, des rayons, etc.
Disons, il faut Bon, d'abord, il y a un problème de terminologie. Ce qu'on appelle aujourd'hui des rayons cosmiques sont des particules. Des protons, des noyaux d'atomes, des électrons, etc. L'ennui est que la terminologie date d'il y a 90 ans. Il y a 90 ans qu'on en a pour la première fois eu des indications qu'il arrive sur Terre quelque chose de l'extérieur, on était persuadé qu'il s'agissait du rayonnement électromagnétique, des photons, des rayons gamma, etc. Et on les a nommés rayons cosmiques. Avec le temps, on a compris qu'il ne s'agissait pas de rayons gamma ou des photons, mais de particules. Mais malheureusement, la terminologie est restée. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui rayons cosmiques est un flux essentiellement corpusculaire. Cela dit, il arrive aussi sur Terre, bien sûr, un flux de rayonnement, de rayons X, de rayons gamma, de rayons infrarouges, tout ce qu'on veut. Mais on n'appelle pas ce rayonnement de rayonnement cosmique.
Oui, parce que c'est un flux de particules. Les rayons cosmiques, ça a l'air de venir de nulle part, en quelque sorte. Hein. On appelle ça rayons cosmiques, c'est pour ça.
C'était cosmique parce que...
Ça venait du cosmos.
Du cosmos, voilà. Par manque d'une meilleure terminologie, voilà. La terminologie est restée. Pour ce qui est des plasmas, c'est une terminologie aussi assez générale qui s'applique pratiquement dans tout l'univers. Un plasma n'est rien d'autre qu'un milieu d'atomes où les atomes ont été suffisamment perturbés par le rayonnement, par la chaleur, par des collisions, pour que des électrons qui tournent autour des atomes soient dégagés des atomes. Donc on a un milieu qui est un mélange d'électrons libres et des noyaux chargés positivement.
C'est-à-dire qu'en fait, les atomes sont décomposés et les particules sont mélangées, oui.
Et à vrai dire, c'est le milieu le plus courant dans tout l'univers. Sous une forme ou une autre, l'univers est fait d'un plasma.
Alors, venez d'entendre la première partie de l'interview de Ludwig Selnickier qui était enregistrée le jeudi 24 janvier 2002.
Donc avant sa conférence, juste avant.
Oui, juste avant sa conférence au muséum, donc dans la semaine de l'astronomie. Alors, c'était une conférence sur le rayon cosmique ultra-énergétique. Alors, justement, là, Ludwig Selnickier vient de nous apprendre, en fait, qu'est-ce que c'était que ces rayons cosmiques, puisque, en fait, cette terminologie date de pratiquement un siècle, hein, 90 ans, et à l'époque, on voyait que la Terre recevait une série de rayonnements, on les appelait rayonnements cosmiques. Maintenant, on s'est aperçu qu'il s'agissait essentiellement de particules. Hein. Bien sûr, ce sont des rayonnements aussi, mais enfin, ce sont des protons, des noyaux d'atomes, etc. Et par contre, tout ce qui est véritable rayonnement X ou infrarouge, on classe plus ça dans le rayonnement cosmique. Alors ça, c'est nous aussi, nous l'avons appris. Hein. Donc il y a pas mal de choses qui bougent dans l'astronomie théorique. Hein. Alors quelques termes. Donc il a parlé de pulsars. Il faut rappeler que les pulsars, ce sont donc les fameuses étoiles à neutrons qui émettent donc des neutrons. Hein. Ce sont des étoiles qui ont explosé. Et là, donc toutes les enveloppes, c'est les fameuses supernovas, et toutes les enveloppes extérieures à l'étoile ont explosé, et au contraire, le cœur s'est effondré, et par conservation du moment cinétique, comme les patineurs, là, qui ramènent les bras, mais ils tournent de plus en plus vite, ce cœur, et donc il se met à émettre des pulsations rythmiques à un rythme extrêmement fou, quoi, de quelques millisecondes d'intervalle, et on a donc ces étoiles pulsantes, on les appelait des pulsars. Un pulse star, bien sûr. Mais c'est de là, d'ailleurs, que vient notre nom Pulsan. Hein.
Pulsan, tout à fait.
On a voulu un petit peu faire un clin d'œil. Alors, il y a donc dans ces rayons des rayonnements cosmiques, il y a aussi quelques rayons gamma, etc. Et ce sont en fait des rayonnements qui sont normalement témoins de ce qui se passe dans le cœur de certaines étoiles. En fait, c'est un espèce de bestiaire. Les rayonnements cosmiques, c'est plein de choses différentes. C'est carrément une véritable arche de Noé qui déboule sur la Terre, et chaque rayonnement est témoin de quelque chose de très particulier. Hein, on n'explique pas le rayonnement cosmique comme ça, d'un coup de cuillère à peau, avec avec une explication sur un type d'objet. C'est au contraire témoin d'une foule de choses, dont des choses qu'on est en train de rechercher. Franchement, la théorie est encore un peu en retard là, sur l'observation.
Il y a aussi l'observation. En fait, eux, ils se limitent à... Ils observent selon un certain type de rayonnement des grosses énergies. Et en fait, le but, c'est de regarder dans les autres énergies, donc dans les autres rayonnements, en lumière visible, en infrarouge, etc., si on voit un objet. Et le problème qu'ils ont notamment, c'est qu'il n'y a pas d'objet qui correspond à ça. Ça fait comme si vous voyez de la lumière arriver et que vous ne voyez pas la lampe torche, quoi.
Voilà.
C'est vrai que c'est assez dingue, presque c'est ce qu'ils disaient. C'est pour l'instant, comme tu l'as dit, ils observent des rayonnements. Mm-hmm. Chaque rayonnement, normalement, doit expliquer soit une étoile, une explosion, etc. Et on n'a pas pour l'instant trouvé l'objet correspondant.
Voilà, sauf les cas où on sait que lorsque un objet émet un rayonnement, celui-ci peut être transformé en cours de route par impact sur d'autres, par interaction avec d'autres rayonnements, etc. Bon, tout cela, c'est en pleine évolution et ça fait appel à plusieurs spécialités. Ma foi, c'est pas du tout un domaine très simple. C'est un domaine où la physique la plus théorique, la plus pointue, côtoie l'observation la plus fine. Donc c'est un domaine de l'astronomie extrêmement difficile.
Merci Daniel, on va passer une petite pause musicale et après on reprend la suite de la partie qu'on vous a parlé sur le rayonnement ultra énergétique avec notamment la dernière partie de l'interview de Ludwig. Nous avons abordé juste avant la pause musicale, les rayonnements ultra énergétiques par un sujet que nous a présenté Ludwig Selnicki lors de sa venue le jeudi 24 janvier lors de la semaine de l'astronomie à Nantes. Il nous a fait une conférence admirable sur ce sujet-là. Daniel en a profité pour lui faire une petite interview. Donc, on a passé la première partie.
Et on va passer la deuxième.
Tu représentes peut-être rapidement un peu le sujet. Puis
voilà, tout à fait. Et si Annie Cordy était le soleil, elle émettrait également des rayons cosmiques. Hein. Mais pas des rayons comiques, il faut le dire. Pourquoi pas? Alors, en fait, Ludwig Selnicki nous a, dans sa première partie, parlé un petit peu, fait un tour d'horizon de ces rayonnements cosmiques. Qu'est-ce que c'était? Des particules, essentiellement. Et curieusement, certains rayonnements, comme les rayons X ou infrarouges, ne font pas partie, ne sont plus classés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les rayons cosmiques. Et j'avais dit en préambule aussi, enfin, ou plutôt en conclusion, que ces rayons cosmiques étaient une véritable famille qui était révélatrice d'un... C'est un parterre de fleurs, et chaque fleur représentait en fait un phénomène astronomique.
Oh là là, t'es dame poète aujourd'hui.
Oui, mais... oui, j'ai l'âme qui s'envole, moi, avec ces choses-là. Alors,
parterre de fleurs.
Voilà, donc...
Non, mais c'est bien, continue.
C'est le maréchal de Saxe qui a dit ça, quand Fanfan la Tulipe était en train de s'étriper avec un adversaire, et puis le général arrive là-dessus, ou plutôt le maréchal de Saxe, puis enfin, qui êtes-vous, qu'est-ce qui se passe ici, et vous, comment vous appelez-vous? Alors, il y en a un qui s'appelait Joe la Marguerite, quelque chose comme ça, et puis, et moi, Fanfan la Tulipe. Alors, il a eu ce mot, mais ce n'est plus un corps d'armée, c'est un parterre. Voilà donc ce qui m'a inspiré ce bestiaire de rayons cosmiques. Et alors, qu'as-tu oublié, toi, Thierry?
Non, rien. Non, vas-y, continue.
Et donc, on va vous passer la deuxième partie de cette interview de Ludwig Selnicki, enregistrée, donc, comme l'a dit Thierry, le jeudi 24 janvier dernier. C'est un monsieur astrophysicien et qui
s'occupe... D'origine polonaise, c'est pour expliquer l'accent.
Voilà, et qui s'occupe d'un domaine vraiment pointu. Alors, vous parliez de matière et d'énergie noire. Alors, quel est le lien avec ce rayonnement cosmique?
On ne sait pas. Probablement aucun. Ce qu'il y a, c'est que l'astrophysique aujourd'hui est confrontée à un certain nombre de problèmes qui sont apparemment parfaitement disjoints. La matière noire est une matière qu'on ne voit pas. On n'a aucune... C'est une matière qui ne rayonne pas.
Oui, c'est par exemple les étoiles qui sont trop petites en train de se former, les naines noires, les naines brunes, peut-être pas, peut-être...
Tout à fait. Il se peut qu'il s'agit effectivement d'objets trop petits pour rayonner. On n'y croit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense qu'il s'agit d'autre chose. On ne sait pas quoi. C'est une matière qui se manifeste par la gravitation, rien d'autre. Et qui semble être partout. On appelle donc la matière noire. Il s'agit peut-être de particules qu'on ne connaît pas, peut-être des états de matière qu'on ne connaît pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est là on cherche à savoir ce que c'est, mais on n'a jamais pu mettre en quelque sorte la main dessus. L'énergie noire est aussi un problème récent. La matière noire remonte pratiquement aux années 30 du XXe siècle, presque. L'énergie noire est un problème moderne qui ne date pratiquement que d'il y a 5 ou 6 ans. Dans les études des mouvements des galaxies, on connaît depuis très longtemps le mouvement de l'expansion de l'univers. On l'étudie depuis le temps de Hubble, depuis les années 30. Et c'est un mouvement qui témoigne d'une séparation des galaxies les unes des autres. Une séparation qui, en principe, devrait se ralentir avec le temps, parce qu'il s'agit d'une sorte de mouvement balistique.
D'explosion, quoi.
C'est pas vraiment une explosion. C'est ce qu'on dit souvent, une explosion sous-entend une explosion de quelque chose dans quelque chose. Ici, il ne s'agit pas de ça. C'est tout l'univers qui s'étale. L'espace même qui s'étale. Donc le mot explosion, en fait, est mauvais. Il est très courant, mais il est mauvais.
Oui, c'est ce qu'on entend par Big Bang. Ça n'a pas fait Bang, date de toute façon.
Bang, c'était très petit.
Vous savez qu'à Nantes, on appelle ça le The Little Flop, plutôt. Ou Flopinet.
Ah, je ne savais pas. En tout cas, ce mouvement devrait se ralentir, parce que c'est un mouvement balistique qui se fait contre la gravitation de tout l'univers. Donc c'est un peu comme une fusée qui monte. Le problème, depuis quelques années, est qu'on a l'impression qu'en fait, au lieu de se ralentir, c'est un mouvement qui s'accélère. Alors, c'est un problème parce que un mouvement accéléré de l'univers sous-entend quelque chose qui pousse. Qu'est-ce qui pousse? On ne connaît aucune force qu'on pourrait qualifier d'antigravitationnelle qui induirait une accélération. Alors, on a surnommé ce phénomène l'énergie noire. Encore une fois, par analogie avec la matière noire, c'est quelque chose qui apparemment existe, mais qu'on ne voit pas. On ne voit que par son effet. Il faut dire que son effet est encore un peu marginal. Ce n'est pas totalement sûr que c'est ça.
En tout cas, c'est un effet qu'on suppose en vertu de la compensation qu'il devrait y avoir du fait de l'expansion.
Oui. Donc, c'est un problème. C'est un problème sur lequel les gens travaillent activement. Est-ce qu'il y a un rapport avec le rayon cosmique? Probablement pas. Sauf en ceci, c'est un des problèmes fondamentaux de l'astrophysique moderne, qui peut-être seront. Enfin, ce sont des problèmes qui peut-être seront résolus bêtement, c'est pas exclu, ou peut-être qui ont besoin d'une restructuration de certains aspects de la physique de base.
Oui, là vous soulignez effectivement le lien qu'il peut y avoir entre la physique, entre la recherche de laboratoire et les observations qui doivent effectivement correspondre.
C'est ça, oui, tout à fait. Si on arrivait par exemple, dans le cas de la matière noire, de piéger une particule de la matière noire au laboratoire, ça serait merveilleux. Et effectivement, on cherche à le faire. Il y a partout sur la planète des détecteurs qui attendent. Qui attendent qu'il passe quelque chose un peu inattendu. Pour l'instant, on attend. Pour l'énergie noire, c'est beaucoup plus difficile. On ne voit pas comment, au laboratoire, on pourrait mettre en évidence l'énergie noire.
Parce qu'en fait, cette énergie noire, si elle existe, ça sera une énergie banale. En fait, c'est la conservation de la quantité de mouvement, c'est quelque
non,
chose comme ça.
Ça ne serait pas banal du tout. Non, c'est ça le problème. Ça serait quelque chose de tout à fait non banal. Aucune énergie qu'on connaît aujourd'hui n'est capable de faire ça. Aucune source.
En fait, on la met en évidence, mais on la met en évidence parce qu'on connaît du ciel les mouvements des galaxies.
Absolument. Absolument, c'est par observation. C'est strictement par observation. Il y a encore des observations diablement difficiles.
Oui, alors en fait, vous travaillez en physique sur ce problème-là, sur d'autres, je suppose. Quels sont vos centres de recherche en ce moment, vos axes?
Mes deux centres, c'est justement la source de rayons cosmiques, le mécanisme d'accélération qu'on peut imaginer pour accélérer les particules des énergies parfaitement inouïes, et le problème du vide. Qu'est-ce que c'est que le vide? Le vide n'est pas vide. Et malheureusement, selon la physique telle qu'elle est connue aujourd'hui, le vide doit être horriblement plein.
Vous répétez ce qu'avait dit Descartes, la nature a horreur du vide.
Voilà, exactement. La nature a précisément horreur du vide.
Comme quoi, c'est un peu un autre aspect du lien entre l'histoire et l'astronomie contemporaine.
Et en un certain sens, les anciens avaient raison. Pour les mauvaises raisons, mais ils avaient raison.
Eh bien, écoutez, Ludwig Zelnicki, à moins qu'autre chose vous souhaitiez compléter cette interview, donc je vous remercie. Et on se souhaite une bonne conférence, je suis sûr qu'elle sera magnifique. Et je vous dis à tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure.
Alors, vous venez d'entendre donc Ludwig Zelnicki, astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon, dans une interview enregistrée le jeudi 24 janvier dernier, peu avant sa conférence sur les rayons cosmiques ultra-énergétiques. Et il a donc donné au cours de cette interview pas mal de précisions justement sur toutes les interrogations qui restaient en suspens. Et on a là, dans une première partie, donc on a donné quelques idées sur la nature de ces rayonnements cosmiques, notamment c'était essentiellement des particules, etc. Et là, dans cette deuxième partie, on atteint un peu le fond du problème. Donc l'interrogation, c'est en fait, comment ces rayons sont-ils émis, de qu'est-ce que c'est, de quoi viennent-ils, ou plutôt ils sont en relation avec cette matière noire qu'on ne connaît qu'à travers ses effets gravitationnels. Et il y a là véritablement l'articulation entre la physique théorique et l'observation. Et comme il l'a bien résumé, peut-être que l'on va expliquer les choses avec la physique actuelle, peut-être aussi que cela va amener une restructuration plus ou moins grande des connaissances actuelles en théorie physique.
Ce qu'on vous a dit un peu, c'est qu'en fait, quand on a discuté avec lui après la conférence, en gros, on va être obligé de le réinviter dans quelques années, puisque on pense qu'il va quand même y avoir des nouveautés dans quelques années.
Oui, alors ce qui nous a, d'ailleurs on s'y attendait, mais enfin ça nous l'a confirmé, c'est que on était dans un domaine où effectivement
ça
les choses bougeaient très vite. Et ma foi, ces conférences à l'interface entre la physique la plus théorique et l'astronomie nous font toujours un petit peu peur. On se dit toujours, mais comment les gens vont-ils prendre cela? Nous-mêmes, on n'est pas tellement, on n'est pas des grands astronomes professionnels, nous autres. On essaye un petit peu de suivre tout cela. Mais bon, vraiment, ça a été un véritable plaisir d'entrer dans cette réflexion avec cette aventure, les interrogations. C'est pas un tissu de certitude, la science. C'est une aventure. C'est une aventure pleine de surprises, pleine de... À chaque fois, on découvre un nouveau paysage. Donc, c'est vraiment là, et c'est ça qui nous fait plaisir, et c'est ça que l'on attend d'une conférence. La conférence, c'est cette confrontation directe entre l'aventurier, celui qui a vécu. C'est un peu le principe de connaissance du monde, hein. Sur scène, hein, celui qui a été, qui a fait le film, et voilà. Et là, c'est un peu ce qu'on essaye d'offrir au public nantais, sur scène, l'aventurier de la science, le chercheur, avec ses doutes, avec ses certitudes aussi, hein, quelquefois, et puis ses erreurs aussi.
Ce que nous a fait Ludwig Zelnicki, c'est aussi une petite enquête, parce que c'est vrai qu'il avait presque le coupable, c'est-à-dire qu'il était comme un policier, il avait le meurtre devant lui, donc lui, il avait des rayonnements qui arrivaient, et puis il avait un bestiaire d'objets stellaires, et puis il essayait de voir si cet objet-là pouvait faire ce rayonnement-là,
voilà,
donc il nous montrait des courbes avec le maximum possible.
Qui est coupable, les fausses pistes aussi.
Les fausses pistes, ils essayaient quelque chose, ça marchait pas, donc c'est vrai qu'ils sont en plein, c'est vraiment très agréable de suivre quasiment la science, on a envie de le rappeler tous les mois pour savoir où ça en est, parce qu'on a l'impression que ça bouge très vite. Bon, c'est vrai que ça bouge, faut pas non plus abuser, ça évolue pas toutes les semaines.
Mais en fait, ça bouge, c'est parce que ça bouge prudemment, la science.
C'est vrai que ça avance, ça évolue tous les ans, même les conférenciers qu'on fait revenir tous les 2-3 ans, certains qui reviennent.
Ils ont toujours du nouveau.
Ils ont toujours du nouveau à nous dire, donc c'est vrai que c'est très très intéressant. Les conférences de la SAN sont très intéressantes.
Oui.
C'est une bonne conclusion, ça.
Ça serait une bonne conclusion, tout à fait. Mais je crois dire qu'elles le sont parce qu'elles montrent aussi comment en science on construit les choses. On n'affirme pas comme ça, c'est pas, comment dirais-je, pas des émissions à sensation. Hein, on va éblouir le spectateur d'un tas de choses, d'un tas de grandes et belles phrases, et puis on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Là, il y a de la matière derrière, c'est le cas de le dire.
Oh là, au deux sens du terme.
La matière noire. Et Ludwig Sédiquier nous montre vraiment le chercheur. Sa manière de parler, c'est pareil, hein, il est posé. Des fois, on attend sa phrase, et elle arrive, et poum, elle est pertinente, simple. C'est un homme qui est vraiment passionnant et c'est pas un excité, alors qu'il s'occupe de choses très excitantes.
Oh bien, Daniel.
Ça, c'est l'excitation, n'est-ce pas, en parlant de rayons cosmiques.
Donc, tout de suite, nous allons continuer l'émission.
Les actualités mondiales.
Nous allons avoir les actualités astronomiques. Intergalactiques, oui, parce que...
On pourra difficilement faire mieux, là. Ouais.
On attaque ça, c'est Fabrice Dubreuil qui va vous présenter, comme d'habitude, les petits actus astro. Quand je dis les petites, à chaque fois, il en rajoute. Donc là, ça va durer encore plus longtemps que prévu. Allez, vas-y, attaque.
Donc, lors de la dernière émission, nous avions laissé Hubble, vous en rappelez, on avait fini, était arrimé à l'astroute de Columbia, et Columbia était victime d'une petite fuite dans le système de refroidissement. Bon. A priori, sans inquiétude, puisque la NASA avait considéré que l'incident n'était pas suffisamment grave pour annuler la mission, et donc Hubble la mission était poursuivie, la mission d'entretien de Hubble. Ils ont bien fait, puisque finalement, ça a été un franc succès, il y avait beaucoup plus de peur que de mal. Et après 5 sorties dans l'espace, l'équipage de Columbia a fait un certain nombre de remplacements sur Hubble. Ils ont remplacé le système de refroidissement de la caméra infrarouge NICMOS. Donc ça, c'est encore le test pour voir si ça marche bien.
Parce qu'il faut les refroidir, ces petites bêtes.
Une caméra infrarouge, oui, autrement...
Parce que toute chaleur, voilà. Ça fait des infrarouges, et donc ça perturbe les observations.
La chaleur des panneaux solaires, la chaleur de tout ce qu'il y a autour du télescope, ça pourrait perturber. Et ils ont installé une nouvelle caméra panoramique destinée à observation dans le visible, à la place de l'ancienne caméra d'observation des objets faibles, la caméra FOC qui s'appelait, maintenant c'est une caméra ACS. Bon. Ils ont remplacé les panneaux solaires du télescope, qui maintenant, augmentant ainsi la capacité énergétique du télescope, et surtout, ils ont installé une nouvelle unité de contrôle de l'énergie, le PCU, comme ils disent, le Power Control Unit. Et là, ils se sont fait un peu peur, parce que pour l'installer, il fallait couper tous les systèmes du télescope. Mais quand on dit tout, c'est tout, il faut tout les brancher.
Même parce que vu qu'il gère toute l'énergie, il faut qu'en fait tout pointe vers lui. Parce que
c'est le module qui répartit l'énergie des panneaux solaires vers les différents instruments. Donc ils ont tous les branchés, ils ont changé de module, et ils ont branché en croisant les doigts pour que ça redémarre. Bon, ça a redémarré sans problème. Et donc, c'est un télescope Hubble rajeuni, en parfait état de marche, qui a été relâché par les astronautes de Columbia le 9 mars, et la navette est revenue sans encombre sur la Terre ferme. Alors, la navette, dès son atterrissage, elle a été examinée sous toutes les coutures. Mais quand on dit examinée sous toutes les coutures, c'est pire qu'un hôpital. Hein. Elle a le droit à l'échographie, elle a le droit au rayon X, elle a le droit à l'examen de surface, l'examen interne, enfin tout.
Il ne reste plus que l'IRM.
Ils n'ont pas fait l'IRM, mais ça n'aurait pas été loin. Quoique, ils ont quand même fait des scanners, mais un autre type de scanner dessus.
Elle n'est pas enceinte, Hubble, alors.
Non, mais la navette contient des corps étrangers denses dans son système de refroidissement. Et c'est ça qui a fait un bouchon dans le système de refroidissement. Alors, la constitution des corps étrangers, ils ne savent pas encore ce que c'est.
C'est des particules cosmiques.
Mais tout ce qu'ils savent, c'est que ce sont des objets qui ont sans doute été introduits accidentellement dans le système de refroidissement.
Ce sont des clandestins.
Pendant la révision générale de la navette, qui a quand même duré de 99 à 2000. Elle a duré 2 ans, la révision générale de la navette. Et au bout de 2 ans, ils trouvent le moyen de laisser des particules non identifiées dans des PNI, des particules non identifiées, dans le système de refroidissement. Alors, actuellement, ils sont en train de chercher à savoir où sont toutes ces particules, parce qu'ils n'ont pas toutes trouvées, pour pouvoir tout enlever, pour pouvoir être sûr que la prochaine fois, ça ne se reproduira pas.
C'est dingue. Des UFP, voilà. Des Unidentified Flying Particles.
Yes. Côté européen, par contre, alors là, le moral est au beau fixe, voire même c'est euphorique. Tout d'abord, donc,
en parlant de PAC, euphorique.
Voilà.
Pas mal.
Donc Envisat, The Environmental Satellite. Le satellite géant qui a été lancé par Ariane 5 le mois dernier, je vous en avais parlé, est en cours de rodage et tout se passe bien, même tellement bien que ce soir, si vous avez regardé les informations, vous avez pu voir à la télé les premières images, qui sont déjà sympas. Donc c'est un satellite qui va observer la Terre, toutes ses coutures, il va observer l'océan, les continents, les nuages, enfin tout. Il y a 10 caméras d'observation à bord, c'est vraiment un autobus de l'espace.
C'est vrai qu'il une très grosse mission. Tu parles d'autobus, que c'est un gros satellite.
Non, non, mais il y a beaucoup de choses. C'est un très gros satellite. L'Europe n'avait jamais encore envoyé quelque chose d'aussi important, autant d'expérience à la fois. Et donc, c'est vrai qu'Ariane 5, là-dessus, avait été très utile. En parlant d'Ariane 5, c'est Ariane 4 qui a décollé dans New Jersey vendredi dernier.
Même pas drôle.
Et qui a placé, au terme d'un vol parfait, mais bon, ça c'est répétitif, voilà, deux satellites de télécommunications en orbite, un japonais et un luxembourgeois.
C'est luxembourgeois,
faut le dire maintenant. Bah, RTL9, tu connais pas?
Ah oui.
Donc c'est le quatrième succès sur 4 vols cette année pour Ariane. 4 vols, bien. 3 d'Ariane 4, 1 Ariane 5, 4 succès. C'est la 149e mission du lanceur. Et donc rendez-vous à la 150e le 16 avril prochain.
Ah, on en parlera à la prochaine émission. Ah non.
Le 16 avril, donc,
si, on en parlera prochainement.
Le 150e vol d'Ariane.
Ah oui.
L'Agence spatiale européenne, de son côté, s'apprête à dévoiler le nouveau véhicule de transfert automatique, l'ATV, qui ira ravitailler la Station spatiale internationale en carburant, vivres, équipements, dans les prochaines années.
Actuellement, c'est Progress.
Actuellement, c'est Progress, oui.
C'est russe.
Donc l'ATV est développée par Arianespace, enfin EADS maintenant, et elle sera présentée dans sa configuration définitive le 9 avril, mais je vous en reparlerai aux prochaines actualités. Enfin, la grande nouvelle du mois pour l'espace européen, c'est l'approbation par le Conseil des ministres de l'Union européenne du projet Galileo.
Et top, poum, les Américains.
Alors, Galileo, en débloquant les 460...
Galileo, oui. J'ai entendu un projet vidéo.
Galileo. Projet... Donc, en développant les 460 millions d'euros nécessaires simplement au lancement du projet, puisque le projet coûtera 3,4 milliards d'euros au final. Mais bon, pour vous donner une idée, ce ne sont que 3 ans de budget de la région Pays de la Loire.
Oui, oui.
C'est de notre région. C'est pas quelque chose d'énorme non plus.
C'est bon de faire des comparaisons comme ça.
Bah oui, voilà, c'est relatif.
Ça peut faire mal. Hein.
3,4 milliards, bon, c'est pas énorme. C'est faut pas dire, on va dépenser des fortunes. Et donc, les ministres des Transports, puisque ce sont les ministres des Transports qui ont voté ça, faut voir la nuance par rapport aux Américains, ont mis fin comme ça au débat qui, il y a 3 mois, avait failli enterrer le projet, ni plus ni moins.
Puisque on avait déjà parlé dans l'émission. Hein.
Puisque les Américains avaient fait pression en disant « Oui, mais votre système Galileo va parasiter notre GPS et ça peut être dangereux. » Pourquoi ça? Ben parce que rappelons Galileo, quand il sera entièrement déployé en 2008, ce sera un système de positionnement par satellite, équivalent et même supérieur d'ailleurs, au système américain GPS ou au système russe, parce qu'il y a un système russe qui s'appelle GLONASS, qui fait la même chose.
Ça va, en fixe, militairement, c'est voilà, très important.
Sa mise en service mettra fin à la dépendance qu'il y a actuellement l'Europe aux États-Unis, puisqu'actuellement, si on veut se positionner n'importe où dans le monde, il faut appeler les Américains pour dire « Est-ce que vous pouvez nous dire où on est ?» Là, on dira nous-mêmes où on est.
Voilà.
Et surtout, chose importante, c'est que
on dira aux Américains où ils sont.
C'est-à-dire tout le monde, vous, moi, n'importe qui, pourra avoir accès au service de Galileo. Parce qu'actuellement, il faut savoir, le GPS, c'est un programme militaire. C'est un programme militaire voté par le ministère de Défense américaine. Et ce sont les militaires américains qui disent, pour les civils, vous avez le droit de faire ça, ça, ça ou ça. Galileo sera un projet civil où les militaires pourront l'utiliser. Mais il sera avant tout civil et donc on aura tous accès à ces mesures. Et donc, on aura sans doute des changements très importants dans la vie de tous les jours, ne serait-ce qu'avec ça, puisque, par exemple, des systèmes de guidage, repérage en montagne, de guidage pour les véhicules et tout ça, toutes ces choses-là seront vraiment à portée de tout le monde, puisqu'on aura un système 100% européen qui sera pour nous, et on n'aura plus le compte à rendre à qui que ce soit.
Ça fait penser, c'était pas une blague, c'est une histoire qui est une vraie histoire véridique entre un navire américain et puis...
Et les Canadiens.
Et les Canadiens, donc en fait, il y a le message, en fait, les Américains disent « Vous êtes sur notre trajectoire, merci de vous dérouter ». Et les Canadiens, non, ils répondent, non, à vous. Et donc, les Américains, nous sommes le, je sais plus quel nom de navire de la marine internationale, la marine américaine, veuillez vous dérouter. Les Américains disent, non, à vous. Donc, les Américains commencent à prendre, donc ils annoncent, nous sommes une flotte actuellement avec tel nombre de cuirassés, etc., commencent à prendre leurs gros bras. Et puis, les Canadiens disent, non, à vous de vous dérouter. Donc, on s'imagine le conflit commence à se rentrer. Les Américains commencent à hausser le ton. Et puis, à la fin, les Canadiens disent, oui, mais nous sommes un phare.
Ah oui, c'est pas une.
C'est pour ça qu'ils ont mis des GPS, hein, parce que maintenant,
c'est important. Ils savent pour savoir où est la route.
C'est très important. C'est là que les Américains répondent.
Bien, routez-vous quand même.
Nous ne sommes plus qu'une demi-flotte, voilà, etc.
Et c'est une histoire vraie, hein, c'est ça qui a
voilà, donc la grosse nouvelle du mois, c'est quand même Galileo, donc qui va commencer à le développer dès maintenant, quasiment, et qui sera entièrement opérationnel en 2008. Donc ça va quand même aller assez vite, hein, puisqu'il y aura 30 satellites qui seront...
Il faut savoir qu'on est qu'en 2002, hein, donc ça fait 6 ans pour déployer, les envoyer, etc., les gérer.
Et là, Ariane 5 va être extrêmement utile.
Voilà.
Face à cette actualité astronautique qui est très riche, l'actualité astronomique n'est pas en reste non plus. va commencer ciel, comme par, le nouveau par le nouveau spectrographe VIMOS, pour Visible Multi-Object Spectrograph.
C'est pas une marque de lessive.
Non, c'est un spectrographe qui a été installé sur un des télescopes de 8,20 m du VLT au Chili, et qui vient d'être utilisé là, pour les premières observations par les astronomes de l'ESO, et qui a vraiment montré toute son efficacité. Puisque c'est un spectrographe qui est équipé de 4 caméras DTC, CCD, enfin pour, selon les langues, qui permet d'observer simultanément 1000 galaxies dans un champ qui représente à peu près la moitié de la pleine Lune. Donc, pour vous donner l'idée, on prend la moitié de la pleine Lune, et dans cette surface-là, avec ça, on voit 1000 galaxies.
15 degrés, ça fait.
Donc c'est déjà assez important. Et même, dans une autre configuration, il permet d'aller observer des galaxies de magnitude 23. La magnitude 23, c'est 15 millions de fois moins brillant que ce qu'on voit à l'œil nu.
Ouh là là.
Voilà. Il faut savoir donc, que VIMOS est l'instrument le plus efficace au monde dans ce domaine. Quand on est le plus efficace, c'est qu'il y en aura deux autres qui vont être mis en place dans le courant de l'année par les Américains et les Canadiens, je crois, mais au moins par les Américains, et qui seront de toute façon, quoi qu'il arrive, deux ou trois fois moins puissants.
J'adore ça, ça c'est
bien. Ça va être mis en place, mais de toute façon, sera moins puissant. À propos de galaxies, c'est une galaxie qui répond au nom de HCM6A qui a fait parler d'elle ce mois-ci.
C'est pas très poétique ça.
Pourquoi est-ce que la galaxie HCM6A a fait parler d'elle, me direz-vous ? Bien parce que depuis, elle est dorénavant l'objet le plus lointain jamais observé. Puisqu'on a observé cette galaxie située à plus de 14 milliards d'années-lumière de la Terre, en l'observant à travers une lentille gravitationnelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lentille gravitationnelle ? C'est un phénomène qui se produit quand on regarde la lumière d'un objet lointain, dévié par un autre objet devant, typiquement là, un amas de galaxies, l'amas Abel 370. Et cette déviance fait que la lumière...
Déviation.
Oui.
Fait que la lumière, au final, est amplifiée. Et là, ça a permis d'amplifier le signal par un facteur 4,5.
C'est une loupe, quoi.
C'est une grosse loupe, voilà. Mais c'est une loupe naturelle.
C'est une grosse loupe naturelle.
C'est une loupe naturelle. C'est-à-dire que les amas de galaxies font loupe par rapport à ce qu'il y a derrière eux plus loin qu'eux. Ouais. Et donc là, on a observé cette galaxie. C'est une équipe internationale qui a observé ça à Hawaï. Et donc, on commence déjà à se dire que cette découverte va changer un peu notre point de vue sur l'évolution des galaxies au début de l'univers. Enfin, si on en croit à la théorie du Big Bang, comme quoi l'univers serait né avec un début et avec une fin.
Mais en fait, c'est un gros problème, c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir une galaxie à 14 milliards d'années, parce que, voilà, logiquement, ils ont mis du temps à se créer, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi.
Donc, il y en a de leur côté, c'est trois astronomes italiens qui annoncent avoir découvert, avec la même technique, les lentilles gravitationnelles, un super amas dans la constellation du Bélier. Puisqu'en observant une galaxie dans cette constellation, ils ont découvert une très grande quantité d'hydrogène autour. Et pas dedans, mais autour. Et quand il y a de l'hydrogène autour d'une galaxie, c'est qu'il y a une autre galaxie pas trop loin. Et une telle quantité, dans le cas présent, c'était plutôt qu'il y avait beaucoup de galaxies pas trop loin. Et donc apparemment, ce serait un super amas qu'ils auraient découvert. Sauf que s'ils l'ont réellement découvert où il est, il se trouve à 12 milliards d'années-lumière. Et là aussi, ça change beaucoup de choses parce qu'on n'en a jamais trouvé aussi loin. Donc ça fait vraiment deux informations sur la galaxie et l'univers lointain. Là, vraiment, quand je dis les nouvelles intergalactiques, qui peuvent aller très loin. Pour les amateurs de tempêtes, à présent, une nouvelle étonnante.
Les amateurs de tempêtes.
Une nouvelle étonnante en provenance de Jupiter.
Il y a un club comme ça, on est les amateurs de tempêtes.
Une nouvelle
on trouve de tout.
Hein. Une nouvelle en provenance de Jupiter.
Ah.
Sans doute, est-ce que vous connaissez
pour la section Jupiter
la tache rouge. La tache rouge, qui est un gigantesque ouragan sur Jupiter, qui sévit depuis au moins 300 ans, depuis qu'on l'observe.
Donc, voilà. Ça fait elle moins... a disparu pendant quelques temps, là, il y a quelques années.
La tache rouge
Non, on a du mal à observer.
On a du mal à l'observer, mais
elle avait été recouverte, je crois.
L'ouragan s'est jamais arrêté depuis au moins 300 ans qu'on l'observe.
C'est un tourbillon stationnaire, en fait.
Mais est-ce que vous connaissez l'ovale blanc sur Jupiter ?
Oh.
Ah, et bien l'ovale blanc, c'est un deuxième ouragan.
Alors pour les amateurs d'ovale blanc.
Plus petit, enfin plus petit, quand je dis plus petit, c'est qu'il peut quand même contenir la Terre entière dans sa surface.
Oui, mais c'est un petit ouragan pour Jupiter.
C'est un petit ouragan pour Jupiter, qu'on observe depuis au moins 70 ans. Il sévit depuis au moins 70 ans, puisque ça fait 70 ans qu'on l'observe. Et bien je vous donne en mille, en ce moment, la tache rouge et l'ovale blanc sont en train de rentrer en collision.
Oula.
Vous imaginez un peu la violence du phénomène.
Ça va faire un gros truc rose.
Eh ben non. Les modèles qu'on a fait tourner et qui apparemment sont véridiques semblent dire que ils vont rentrer en collision, ils vont se traverser l'un l'autre, et puis l'ovale blanc va sortir de la tache rouge et comme si de rien n'était, va continuer son chemin.
Ça, c'est les modèles numériques, ça, qu'on a fait en laboratoire.
Apparemment, aucun des phénomènes va être affecté et aucun des deux ne va disparaître. Ils vont continuer à exister l'un avec l'autre.
Donc là, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ils commencent à arriver. Donc là, ils ont fait des prédictions par rapport au modèle numérique qu'on a avec les ordinateurs.
On peut parler de prédiction, voilà. Parce que c'est pas sûr que ça va arriver.
Voilà, et donc là, l'intérêt, ça va être de voir, c'est avec ça que la science évolue, parce que on fait une prédiction, et on va pouvoir vérifier si ça marche. Si ça marche et que notre modèle il est pas trop mal, on va pas dire génie bon parce que ça serait un peu.
Bah, il
un
est bon pour prévoir ça.
Voilà. Mais par contre, si ça marche pas, bah, ça remet en cause pas mal de choses.
Enfin, toujours est-il qu'en ce moment sur Jupiter, il y a un sacré avis de tempête. Il faut pas se trouver dans le coin.
Donc pour ceux qui veulent partir pro Jupiter la semaine prochaine, il y a les vols, tous les vols sont annulés à cause
vous
d'une grève.
Vous attendez que l'œuf blanc, non, l'ovale blanc.
L'ovale blanc est traversé la tache rouge.
Voilà. La tache rouge.
Voilà.
Pour finir, deux petites nouvelles qui sont tombées là cette semaine.
Je bigne.
Tout d'abord, une nouvelle excellente, une excellente nouvelle en provenance de Mars, puisqu'on a repris contact avec Marie. Alors, qui est Marie?
Ah bon, elle est tarée. C'est Pâques, c'est pour ça, mais je pense pas que Pâques, Marie doive revenir normalement. Marie de retour. Après Jésus de retour, il y a Marie.
Pas de blasphème, je vous en prie.
Voilà. C'est pas moi. C'est explique écrit. Pourquoi Marie
revient. Marie, c'est l'instrument de détection des radiations sur Mars.
Ah.
Qui est embarqué à bord de Mars Odyssey et dont on avait perdu le contact depuis un an à peu près. Mais c'est vrai qu'on s'était pas trop occupé non plus de rétablir le contact. Tout ce qu'on pensait, c'est d'envoyer la sonde jusqu'à Mars, déjà. Après, l'instrument récupérera. Et là, on a essayé de recontacter l'instrument plusieurs fois, et ça y est.
On a essayé de faire l'annonce à Marie.
Voilà.
L'annonce à Marie.
Et ça y est, elle a répondu. L'instrument a répondu, et a envoyé des informations. Donc tout se passe bien, la sonde est donc opérationnelle à 100%, et va pouvoir continuer sa mission, qui a déjà pas mal commencé. Et donc, pour réellement terminer, une petite annonce en provenance de la Chine, puisque l'agence spatiale chinoise a mis en orbite le 25 mars le vaisseau Shenzhou 3, donc ça veut dire qu'il y en a déjà eu deux avant,
voilà.
Qui est un vaisseau habité, enfin habitable, pas habité actuellement mais habitable, et qui marque un petit pas supplémentaire sur le long chemin qui va mener la Chine à devenir la troisième nation après les Russes et les Américains à envoyer un homme dans l'espace d'ici peu de temps.
C'est vrai que c'est un peu dommage, les Français, les Européens n'ont pas encore les moyens pour le faire. Bon, on ne sait jamais, le projet Hermès pourrait reprendre.
Peut-être pas non plus vocation à le faire.
Mais c'est vrai que là, déjà même la TV, là, c'est déjà bien.
Voilà.
L'automatique transfert véhicule, c'est ça, transport véhicule, c'est un petit véhicule qui devrait pouvoir emmener des vivres, etc., et des instruments à la Station Spatiale Internationale. C'est quand même bien que l'Europe en ait bientôt un. Donc, voilà.
Alors même le seul.
Oui, tout à fait.
Eh bien voilà, merci Fabrice et merci à nos auditeurs d'avoir supporté l'anti-américanisme primaire de nos amis Thierry et Fabrice, qui est de mise dans nos actus astro. Et
ben, c'est moi qui parle. L'anti-américanisme, c'est juste une constatation des faits.
Oui, d'ailleurs, c'est anti-américanisme tout court, hein, pas primaire. Hein, pourquoi ?
Non, ouais, tout à fait.
Et donc c'est moi qui reprends un peu l'antenne pour remplacer Thierry quelques instants, puisque c'est Thierry qui va parler maintenant, qui va nous parler, ma foi, de la date de Pâques. Alors Thierry, ça fait partie des questions qu'on ne se pose pas souvent. Hein. Pourquoi est-ce que Pâques se trouve à une date déterminée? Alors ce qui est le plus bizarre encore, c'est que d'année en année, ça change et ça change même beaucoup. Alors à quoi est liée cette date de Pâques?
En fait, la date de Pâques est très simple. Je vais vous donner la phrase indispensable à retenir. C'est Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la Lune qui atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après.
Alors moi j'ai une phrase plus simple. Hein.
Donc là, ça, c'est une phrase un peu plus compliquée pour dire en fait que la Lune, c'est la nouvelle Lune, c'est la Lune qui donne la date de Pâques en fait.
C'est beaucoup plus simple que ça. Enfin, c'est ça, mais sous une autre forme. Pâques se trouve le premier dimanche qui suit la première pleine Lune de printemps. C'est-à-dire que
c'est pas totalement vrai.
La première pleine Lune après le 21 mars, le dimanche qui suit, c'est Pâques.
Oui, immédiatement après, parce que tu peux avoir la première lune peut être la nouvelle lune peut être le 21 mars. Donc ça veut dire soit c'est cette date-là, soit
pleine
après.
Lune, hein, pleine lune.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tout repose sur le fait que dans l'histoire en fait de parce que Pâques, faut pas oublier comme que c'est une religion chrétienne, une fête chrétienne. Donc fête chrétienne, une fête religieuse, on va dire.
Il y a
donc,
la Pâque juive.
Hein, oui, on va pas.
C'est pas la même Pâque.
C'est pas pareil, non. Donc en fait, faut savoir que dans l'évolution de notre calendrier, on en a déjà parlé plusieurs fois. À un moment, au niveau des Romains, a été mis en place un calendrier qui faisait 365,25 jours. C'était le calendrier julien qui a été mis en place notamment par Jules César, qui a été appliqué un peu plus tard.
365 jours, un quart.
Ouais. Un quart. Donc en fait, faut savoir par contre que la véritable valeur, c'est 365 jours, 24, 22. Ce qui s'est passé, c'est que ce petit décalage de 0,0078 jours, donnant en fait 11 minutes, à peu près par an, ce petit décalage de 11 minutes, en un siècle, a atteint 0,78 jours. Ça veut dire que ça commence à devenir important, et surtout au bout de 3 siècles, on a un décalage de 4 jours. Ce qui veut dire qu'à l'époque des Romains, on a commencé à perdre ou à avoir un retard d'11 minutes tous les ans. Ce qui nous a fait au bout de 3 siècles, au bout de 4 siècles, 3 jours. Ce qui veut dire que le calendrier julien retardait de 3 jours sur les saisons. Qui dit les saisons dit aussi le passage de la détermination du printemps. Et pourquoi il fallait absolument déterminer le printemps? Puisque bien sûr derrière il y a Pâques. Parce que Pâques est en fonction de la lune et en fonction de la date du printemps. Donc, à ce moment-là, arrive, on se retrouve dans une année au Concile de Nicée, au XVIe siècle. En fait, notamment jusqu'au VIe siècle, les dates mobiles, parce qu'en fait, toutes les fêtes de Pâques sont en fonction, comme l'Ascension, etc. Il y a des jours qui sont avant Pâques, les fêtes qui sont avant Pâques, et d'autres qui sont après Pâques. Je vais essayer de vous les donner, la majorité des fêtes mobiles, ce qu'on appelle les fêtes mobiles de Pâques. Il faut savoir en fait que Pâques, ça donne une date, et à partir de là, vous mettez toutes les dates qui suivent. C'est-à-dire, alors il faut que je retrouve ma page que j'ai perdue, dont je vous le donnerai tout à l'heure quand j'aurai retrouvé ma page. Voilà, donc en fait, il faut savoir que vous avez le premier dimanche du carême, vous avez donc Pâques, après 39 jours plus tard, vous avez l'Ascension, 49 jours après Pâques, vous avez la Pentecôte, après vous avez la Trinité, Fête Dieu, Sacré-Cœur, Épiphanie, etc.
Donc quand Pâques est tôt, la Pentecôte est tôt, voilà, inversement.
Donc c'est vrai que c'est toutes ces fêtes religieuses, qu'on appelle les fêtes religieuses mobiles. Vous avez actuellement dans vos calendriers les fêtes légales, mobiles, c'est le jour des souvenirs, la fête des mères, puis bien sûr toutes les fêtes... qu'on appelle fête légale fixe, c'est le jour de l'an, fête du travail, fête nationale. Donc vous avez des fêtes fixes qui sont en fonction de la date, des fêtes légales mobiles qui sont en fonction du jour, comme notamment le jour du souvenir des déportés, c'est le dernier dimanche d'avril, la fête de Jeanne d'Arc, etc., c'est le deuxième dimanche de mai, la fête des mères, c'est le dernier dimanche de mai, etc. Donc ça, c'est des fêtes mobiles.
Les élections de Gogol.
C'est mobile.
C'est mobile aussi.
C'est mobile.
Tout le monde s'en fout.
Donc là, vous avez les fêtes religieuses mobiles qui sont en fonction de Pâques, les fêtes religieuses fixes. Il ne faut pas oublier quand même que vous avez notamment la Toussaint, c'est le 1er novembre, Noël le 25 décembre, et puis qui sont quand même au départ des fêtes religieuses, même si maintenant ça a été rattrapé plus pour le Père Noël et les cadeaux. Mais, donc vous avez pas mal de choses comme ça. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Pâques, puisque en fait, c'est Pâques qui a déterminé beaucoup de choses au niveau du calendrier. Qu'est-ce qui se passe ? Au concile de Nicée, donc il y a le pape Grégoire XIII qui en fait se rend compte que Pâques commence à avoir un retard, et donc il décide notamment d'enlever un jour tout notre fameux retard, d'enlever un jour pour les années séculaires, c'est-à-dire les années qui finissent par 2-0, pour rattraper ces 4 jours tous les 3 jours tous les 4 siècles. Donc en fait il se dit c'est pas compliqué, toutes les 4 siècles, tous les siècles qui finissent par 0, qui sont divisibles par 400, vont devenir une année bissextile. Donc, on avait déjà à l'époque mis en place l'année bissextile. Tous ceux qui ne vont pas être divisibles par 400, ça ne va pas être une année bissextile. Donc, en fait, on va pouvoir rattraper ce petit retard qui était de 3 jours tous les 4 siècles.
Donc, on enlève un jour tous les 4 siècles
au calcul normal.
En plus du
système d'année bissextile qui fonctionne tous les 4 ans. Donc, ce qui n'est pas compliqué, 1600 devient donc bissextile, divisé par 4, l'année 2000 était bissextile, par contre 1700, etc., 1900, 1800 ne l'était pas. Donc, par contre, cette correction est de 0,75 jours par siècle, cette correction-là. Alors que l'autre valeur, au départ, était 78. De 0,78. Donc, elle est encore trop longue de 0,0003 jours par an. Alors, si vous faites le calcul, ça fait en gros qu'on aura changement à faire tous les 10 000 ans, mais d'ici là, on a franchement autre chose à faire. Donc là, c'est le pape Grégoire notamment qui a permis ce système-là.
C'est le calendrier grégorien.
Voilà. Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit, le calendrier suffit bien pendant un certain temps, mais notre calendrier, ou l'année julienne qui vient de Jules César, de 365,25, commence à devenir problématique. Pour vous donner une idée, les dates de l'équinoxe de printemps en 2000 après Jésus-Christ, c'était le 20 mars, en 1000 après Jésus-Christ, c'était le 14 mars, en 1er Jésus-Christ, c'était le 22 mars. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la date de l'équinoxe de printemps est fixée en 25 mars. Sauf que on se trouve notamment en l'an 325 qui tombe le 21. Donc en fait, les pères de l'Église attribuent cet écart à une erreur de Cisogène. C'est lui qui a fixé la date du printemps.
Les pères de l'Église, c'est très drôle quand on sait qu'ils normalement ils sont pas pères, ils se marient pas, ils font pas d'enfants. Hein.
Donc
curé de père en fils, comme disait l'autre.
Voilà, tout à fait. Donc ce qui se pose, donc de 46 avant Jésus-Christ, date où était mis en place ce système, à 1581-2, il s'est écoulé près de 1600 ans et le décalage est de près de 12 jours, ce qui est quand même pas innocent comme décalage. Donc, l'imprécision des observations étant ce qu'elles sont, on n'a pas pu déterminer facilement ces heures-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un léger décalage entre plusieurs dates de Pâques avec les problèmes de 0,0, etc. Donc en 325, on reprend notre année 325, le Concile de Nicée, donc en fait c'est un regroupement de religieux, s'inspire des textes bibliques pour décider maintenant que Pâques se fêtera le premier dimanche qui suit la pleine lune de printemps. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez la date du printemps, vous avez une pleine lune, et c'est le premier dimanche qui suit. Donc, actuellement, c'est toujours en usage aujourd'hui, c'est toujours comme ça que c'est calculé, c'est Pâques et le dimanche qui suit le 14e jour de la lune. Alors pourquoi 14e jour ? Parce qu'en fait, on commence la lune à...
La lune à la nouvelle lune.
À la nouvelle lune, on considère que c'est son zéro jour, et en fait, vu qu'elle fait 28 jours...
On a une nouvelle lune de nouveau, la suivante.
Donc la pleine lune est au 14e jour.
Voilà.
Donc, il s'agit de la lune conventionnelle du calendrier ecclésiastique qui est utilisée. Hein. Donc... Le 14e jour, c'est pas obligatoirement le jour exact de la pleine lune. Hein. C'est vraiment le 14e jour. Donc, on reprend. Si le 14e jour de la lune est un dimanche, Pâques est reparté au dimanche suivant. Ce qui vous donne vous avez la date du printemps. Donc, on est d'accord. Si la pleine lune tombe tout de suite le 21, ça peut être le 21. Le 22 plutôt. Si la pleine lune est un... En samedi, c'est le 21 mars, c'est-à-dire que le dimanche qui suit, on est bien le dimanche qui suit la pleine lune, donc ça va être le 22, ça va être Pâques. Par contre, prenons le pire, où en fait, le 21 mars, la lune est presque nouvelle, c'est-à-dire qu'on a quasiment aucune... il faut attendre 14 jours pour avoir la date de pleine lune, plus ça va tomber encore un mauvais jour, ça va tomber un dimanche suivant. Ce qui veut dire qu'en fait, la date de Pâques va vagabonder sur 35 dates. Pâques peut être situé entre le 22 et le 25 avril, ce qui vous donne des choses assez importantes.
Le 22 mars.
22 mars et le 25 avril, excuse-moi, c'est pas entre le 22 et le 25 avril, c'est entre le 22 mars et le 25 avril. Donc, tout ça pour dire qu'il faut absolument savoir, donc qu'il faut retenir, c'est que vous trouvez sur votre calendrier, notamment si c'est pas marqué Pâques, vous trouvez quand est-ce qu'est positionnée la Lune. Et en fait, c'est tout simple, quand elle est en pleine Lune, c'est le dimanche qui suit... Bien sûr, on prend après le 21 mars.
Maintenant, si vous avez un calendrier, en principe, c'est marqué.
Normalement, c'est marqué. Pâques, mais il faut savoir que c'est toujours les astronomes.
Comment c'est calculé,
c'est toujours les astronomes qui ont calculé. En fait, le problème des astronomes, ce qui est leur but, ça a été notamment de calculer ils calculent toujours, c'est mon bureau des longitudes, je crois qu'ils s'en occupent. Ils ont calculé pour les 2 ou 3 000 ans à venir les dates de Pâques, puisqu'en fait, il faut savoir à quel moment va être la pleine lune. Exactement.
Et pour cette année, si vous voulez juste vérifier, vous verrez que la pleine lune était jeudi ou vendredi, je ne sais plus.
Voilà.
Vous regardez sur votre calendrier, vous avez la pleine lune jeudi ou vendredi dernier. Et Pâques est tombée hier.
De toute façon, les astronomes ont toujours eu pour fonction d'observer le ciel pour donner les dates importantes, quel que soit d'ailleurs le calendrier qu'on savait imparfait. Je parle là au temps des Égyptiens et de tout temps. Et effectivement, eux seuls pouvaient véritablement...
Il ne faut pas oublier non plus une petite partie importante, c'est que Pâques, c'est le retour des cloches. Hein. Ont été
baladés.
C'est pour ça qu'on est à l'antenne. Voilà. Faut pas oublier pourquoi en fait vous mangez des œufs en chocolat, puisque en fait Pâques ça sonne aussi avec les cloches la fin du carême, c'est-à-dire la fin du jeûne. Et en fait, eh bien, qu'est-ce qui se passait ? C'est que dans les contrées lointaines de la France, c'était impossible d'empêcher les poules de pondre des œufs pendant le carême. Parce qu'il faut bien qu'ils pondent, ils pondent pas, ils s'en fichent.
Et donc on les faisait cuire pour les conserver.
Non, en fait ce qui se passait, c'est qu'ils le conservaient un certain temps. Un œuf, ça peut être conservé cru pendant un certain temps. Mais ce qui se passait, c'est qu'ils en mangeaient un certain nombre, mais les œufs commençaient à s'entasser. Donc en fait, c'est devenu une habitude, au moment de Pâques, de distribuer tous les œufs dans le voisinage. Et puis un chocolatier intelligent a décidé de donner pour les enfants des œufs, de faire des œufs, mais en chocolat, d'où vient, pourquoi vous avez des œufs en chocolat au moment de Pâques?
Bientôt, on fera des navettes spatiales en chocolat.
On en fait déjà.
Ouais. Eh bien, merci Thierry pour cette précision sur la date de Pâques. Je pense qu'on l'avait déjà fait, mais périodiquement, on vous donnera quelques informations comme ça sur les points importants. Et maintenant, eh bien, nous allons continuer un petit peu avec un point d'histoire, parce que ça tombe en même temps avec le 1er avril. Et bien, le 1er avril, on se fait des niches, hein, des blagues, et nous parlons de poisson d'avril. Alors, Fabrice, d'où vient cette coutume ? Alors, pourquoi les poissons d'avril, Fabrice ?
Bah, déjà, pourquoi le 1er avril, des blagues ? Parce que les poissons d'avril, c'est assez... quand on cherche l'origine du 1er avril et des poissons d'avril, on se rend compte qu'il y a moult versions possibles et imaginables. Alors déjà, les blagues du 1er avril viennent justement d'un problème de calendrier qui est que le calendrier grégorien a remplacé le calendrier traditionnel.
À l'époque
Charles IX. À l'époque, le début de l'année était le 25 mars. Et on faisait la fête pendant une semaine jusqu'au 1er avril. Et puis Charles IX a décidé en 1564 que dorénavant, le début de l'année serait le 1er janvier. Donc là, c'était en 1564, et donc en 1565, on a célébré le 1er janvier, le nouvel an, on a fait la fête et tout, on s'est offert des cadeaux. Mais le 1er avril 1565, les gens se sont dit, pourquoi on ne ferait pas la fête non plus, on le faisait bien l'année dernière, pourquoi pas cette année? Donc on a décidé de faire la fête, mais de faire la fête de manière drôle, de manière amusante, et donc de se faire des blagues.
Il y avait aussi une partie moquerie, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui avaient adopté le nouveau calendrier ne faisaient plus la fête. Du 25 voilà. mars au 1er avril. Et donc, en fait, ceux qui étaient, entre guillemets, les gens qui ne voulaient pas bouger, comme on a actuellement dans la population, des gens qui ne veulent pas changer, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y avait des gens qui faisaient encore la fête du 25 mars au 1er avril. Donc, ils étaient un peu là, suscitaient la moquerie des autres. Donc, ils ont décidé aussi de leur faire un peu des blagues pour s'en moquer un peu.
C'est globalement, c'est l'origine des blagues du 1er avril est globalement considéré comme remontant à cette époque-là.
Voilà, alors résumer par rapport à Fabrice, on a une explication. Le 1er avril, on fait des blagues
parce que
l'année a changé sous Charles IX. Alors maintenant, pourquoi
ces blagues-là sont valables dans le monde entier. Maintenant, pourquoi les poissons? Alors là, c'est beaucoup plus limité puisqu'on trouve finalement le poisson d'avril qu'en France et en Belgique. D'après ce que j'ai recherché.
Tiens.
Voilà, il n'y en a pas en Allemagne, ils ne font pas ça, les Anglais n'en font pas, les Espagnols n'en font pas, les Italiens n'en font pas, nous, les Français et les Belges en font. Bon, pourquoi ?
Et vous faites même des poissons en chocolat.
Voilà, mais c'est normal, c'est du chocolat belge.
Oh là, bien.
Pas toujours.
Voilà.
Alors mais la première idée qui est fausse, qui paraît fausse, c'est qu'en fait, ce serait une idée astronomique, c'est aussi pour ça qu'on en parle, ça serait qu'à cette époque-là, le Soleil quitte la constellation du poisson.
Ah oui, alors ça fait partie des fausses pistes.
Mais ça me paraît une fausse piste. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas...
C'est trop beau pour être vrai, c'est ça ?
Mais ça fait pourquoi une blague, les gens s'intéresseraient à l'astronomie derrière.
Surtout la constellation des poissons, voilà. Que personne ne connaît.
Voilà, qu'on n'utilise quasiment pas, qui n'est pas la plus intéressante, qui n'est pas la plus connue. Donc c'est vrai que ce serait la constellation du Grand Ours, bon, on veut bien, mais bon. Mais là, ça passe pas, c'est pas très logique vu que c'est une moquerie populaire... Pourquoi ils auraient...
Oui, parce qu'on donnerait des... Comment dirais-je, on serait des crustacés en chocolat lorsqu'ils quittent le scorpion.
Voilà. Non, c'est vrai que c'est pas très...
Encore que le scorpion, c'est une araignée. Hein.
Ouais. Enfin, toujours est-il que, pourquoi les poissons? Parce qu'on trouve d'autres blagues dans d'autres pays, sauf autre chose, mais nous, les poissons. Donc, il y a deux raisons possibles. L'une plus véridique que l'autre, sans doute.
C'est à vous de trouver la bonne.
Voilà. La première pourrait être liée à Pâques. Parce que, justement, ça correspond à peu près à la fin du carême, que pendant le carême, on mange essentiellement du poisson. D'où les poissons d'avril, parce que on termine de manger du poisson plutôt de la viande. C'est pas trop logique. Par contre, une raison beaucoup plus amusante et certainement beaucoup plus véridique, qui remonterait quasiment aussi au règne de Charles IX, viendrait que le 1er avril, c'est la fin de la saison de pêche. On peut plus pêcher, à cause des périodes de frais pour les poissons. Et donc les pêcheurs qui n'ont pas pêché de poisson le 1er avril sont bien embêtés. Et à l'époque, et aujourd'hui encore, pendant quelques temps on l'a fait, maintenant c'est vrai que les poissons sont plus devenus des poissons en papier, mais pendant très longtemps, les farceurs jetaient des harengs dans les rivières aux pêcheurs qui n'avaient toujours pas pris de poisson au 1er avril, leur criant poisson d'avril, justement pour se moquer d'eux, puisque pendant toute la saison de pêche, ils n'avaient rien trouvé, et que la saison de pêche sont finies, il fallait bien les plaindre un peu ou se moquer un peu d'eux, en leur mettant des poissons... Déjà, des poissons séchés, du hareng, devant eux, comme ça, cela était sûr de les attraper.
Oui, séché, parce que le hareng, au mois d'avril, il descend.
Voilà. Non, mais tout à fait.
Pêché en hiver, en manche. Hein.
Voilà, c'est vrai que cette explication, moi, personnellement, c'est celle qui me valent mieux, presque. Mais il y en a d'autres en plus.
Bon, il y a d'autres explications. Il y a aussi l'explication, mais là, qui remettrait aussi en cause l'idée du premier du changement de date. Parce que ça, il y aurait peut-être une explication qui remonterait aussi aux Romains et aux premiers chrétiens. Puisque bon, les premiers chrétiens, pour rentrer en détail, avaient comme signe de ralliement le poisson. Bon, pour les questions étymologiques, parce que poisson, ça disait ictus, et que ça voulait dire, dans un mélange moitié gréco-latin, Jésus-Christ, fils Dieu sauveur, si on prenait toutes les lettres, donc signe de ralliement
des premiers chrétiens. Première lettre de chaque phrase, de la phrase.
Oui. Des premiers chrétiens. Et quand le calendrier chrétien commence au 1er janvier. Le calendrier romain commence au 1er avril. Et pour se moquer des chrétiens, on offrait des poissons. C'est une autre hypothèse, mais beaucoup, beaucoup moins adoptée, et qu'on trouve beaucoup moins souvent, puisque justement, le calendrier a vraiment fait le yo-yo pendant très longtemps, jusqu'en 1564, qui est vraiment la dernière date à laquelle l'année a commencé le 1er janvier, puisqu'elle a commencé le 1er janvier, le 1er avril, le 25 mars, un peu n'importe quand, jusqu'en 1564.
Donc, voilà, où Charles IX a décidé de remettre ça au 1er janvier.
Donc l'histoire du poisson d'Aramis, c'est plus une histoire de pêcheur.
Bah, ce qui paraît plus logique, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très populaire. Donc,
le poisson soit une affaire de pêcheur, c'est...
Voilà, mais c'est vrai que les blagues, c'est très populaire. C'est pas les astronomes qui vont s'envoyer des fausses informations sur les constellations. Donc on imagine qu'on peut déjà enlever la constellation du poisson, que peu de personnes ne savent reconnaître dans le ciel, d'ailleurs. Donc c'est pas une des constellations les plus faciles à retrouver.
Oui, moi en premier.
Voilà, moi aussi.
Donc, je connais la baleine, mais encore que ce soit pas un poisson.
Voilà. Donc c'est vrai qu'on pencherait nous plutôt pour l'explication des pêcheurs. Des pêcheurs qui pêchaient pas pendant la période de pêche, et puis le 1er avril étant la dernière date, on leur donnait des harengs ou des autres poissons
sur leur pied. Et maintenant des poissons en chocolat.
Et maintenant des petits poissons en chocolat en plus des œufs. Merci, donc nous on arrive à la fin de cette émission. On a encore deux petits trois minutes pour finir de conclure. Donc, on vous a parlé...
Finir de conclure,
c'est juste. Ah oui, c'est pas mal ça, ouais. Donc, on vous a parlé du ciel du mois. Donc, je vous rappelle les petites choses à observer. Vous avez la comète Ikiazong. Voilà, Ikiazong.
Et donc... c'est pas de la publicité, on le précise.
Non, mais ce n'est pas du tout pareil.
Ça n'a rien à voir. Puis, ce n'est pas des Japonais, c'est des Suédois, les autres.
Hein. Voilà, donc Ikiazong. Donc, là, une comète observée dans la constellation d'Andromède. Qui va se rapprocher de la fameuse galaxie d'Andromède, donc quelque chose intéressant à voir. Donc là, vous l'observez au nord-ouest, idéal, une petite paire de jumelles, c'est encore mieux. N'oubliez pas qu'il y a Mercure.
Si vous avez une seule jumelle, ça ira aussi.
Voilà, deux paires, c'est pour quand vous êtes plusieurs. Vous avez aussi la planète Mercure, qui est une planète qu'on arrive très peu à observer, puisqu'elle est très proche du Soleil par rapport à ce qu'on voit nous. Donc en fait, elle est souvent dans les lueurs du Soleil, donc elle est quasiment invisible.
Mais elle sera dans son maximum d'élongation. Voilà. C'est-à-dire que là, si on ne l'observe pas maintenant, on l'observe encore moins les autres fois.
Voilà, donc là c'est fin avril, en plein ouest, bien sûr, où se couche le Soleil.
Voilà, au Soleil couchant, et dans les lueurs du Soleil couchant, vous verrez deux étoiles, une très proche du Soleil et très faible. Mais c'est la seule étoile, et aucune étoile ne pourrait résister à la lumière du Soleil, donc ça sera Mercure, et puis un peu plus haut, et beaucoup plus comme un véritable phare, ça
voilà,
sera Vénus.
Vénus, à voir. Autrement, les prochaines dates importantes, la prochaine émission, c'est le 6 avril, le premier lundi du mois d'avril.
Non,
Le 6 mai.
On est déjà en
avril. Premier lundi du mois de mai, j'étais en train de réfléchir.
Ouais. Ouais.
Premier le 6 mai, et on aura passé le phénomène astronomique que nous vous invitons à voir au Grand Blottereau, voilà. À 7h du matin, aux alentours du 1er mai.
Voilà.
Et on vous donnera la précision, il faudra nous téléphoner au 02 40 68 91 20 pour connaître la date exacte de l'invitation que nous faisons au public pour voir le passage du soleil derrière la stèle du Grand Blottereau.
Donc n'oubliez pas non plus le week-end qui vient, samedi, dimanche, lundi. Vous avez la foire de Nantes, la foire internationale de Nantes, c'est pas la peine d'y aller actuellement, il n'y a pas grand chose à voir. Le moment important, c'est que la SAN y sera le 6, 7 et 8 avril.
Samedi,
si les organisateurs m'écoutaient, ils me diraient qu'il y a d'autres choses à voir, sûrement.
Non, il y a plein de choses à acheter. Mais...
Et sinon, voilà. comme chose à voir, si vous avez la possibilité, là, il y a des vacances scolaires qui arrivent, donc si vous partez un peu loin de Nantes, parce que Nantes, c'est pas propice pour ça, avec un bon télescope, essayez de regarder Jupiter, puisque par temps calme et, pas trop, et ciel pas trop lumineux, donc dans un coin assez loin de Nantes, vous pourrez observer l'ovale blanc dans la tache rouge.
Ah oui, tiens.
Ça va être intéressant à voir. Et puis bien sûr, les prochains ciels de Nantes, le 20 avril.
Samedi 20 avril.
Alors, je vous rappelle les dates. Du premier, en gros, début mai, vous allez avoir l'observation du phénomène à la stèle du Grand Blottereau. On précisera les dates. La foire de Nantes, c'est le week-end qui vient. Prochain ciel de Nantes, l'observation publique de la Société d'Astronomie Nantes, c'est le 20 avril, le samedi soir, à partir de 21h. Merci à tous les participants de l'émission et merci aussi à Claudie et Jean pour la réalisation à la technique. Tout de suite, nous allons laisser l'antenne à Reggae Time qui, comme nous, malgré Pâques et le 1er avril, etc., continuent à faire de la radio. Ils sont
absolument
comme nous. C'est très bien.
Ils sont normaux.
Ils sont normaux, ils ne s'arrêtent pas quand le monde s'arrête. L'important, c'est que vous soyez sur Alternante, vous étiez avec la Société de l'Astronomie de Nantes. Et puis, bonne nuit à tous, observez bien et à la prochaine.